Préface. L'écureuil. Le cinquième mois de l'année débute par quelques points de suture et une immobilisation de plusieurs semaines. Rien de grave. Il faudra être patient, dit le chirurgien à la suite de l'intervention. Je lui réponds que ce n'est pas ma qualité première, mais que je ferai ce qu'il me dit. Ma convalescence se déroule dans un coin paumé de Corrèze, à deux pas de là où j'ai grandi. Mes journées sont balisées par quelques visites et les soins de l'infirmière. Je lis, j'écris, je regarde des films, je goûte le silence et la paix. De ma fenêtre, le ciel ressemble à une banquise renversée sur laquelle glissent des oiseaux. Je me sens comme une voile gonflée par le vent, accrochée à un mât. Le monde bouge tout autour, mais pas moi. Oh, je ne suis pas vraiment inquiet, c'est une question de temps. Ce temps, dont il me semblait toujours manquer auparavant, vient de se déverser de la benne d'un camion. J'essaie de ne pas en perdre une miette tout au long de cette oisiveté forcée, pour faire ou ne rien faire, selon mon humeur du moment, selon mes envies. Depuis quelques jours, je réfléchis à la préface que j'ai promise en introduction d'un recueil de nouvelles produites par des personnes en situation de handicap, accompagnées par l'ADPI de la Corrèze, avec pour thème des sentiments, bonheur, amour, désir, regret, colère. Je ne sais pas par où commencer, comment rendre hommage à cette belle initiative, éviter les clichés et toutes les formes d'apitoiement maquillées en bons sentiments, fuir les autoroutes du pathos. Je spécule, j'imagine, je jette des phrases. Et puis, Anthony Signol m'envoie les textes mis en page. Je les lis, les relis. Tout au long de cette lecture, je me sens ballottée par ce flot de mots, comme si j'étais une grume dans le courant d'un fleuve. J'en sors bouleversée. En vérité, je n'en sors pas. Je plonge et replonge. Que dire de plus face à cette urgence? Je repense aux mots de René Char. Tu es pressé d'écrire, comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais des cortèges à tes sources. Hâte-toi. Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union. Et s'aimer la poussière, il s'agit bien de cela. La respirer sans affect, comme du pollen s'en allant bousculer nos mécaniques complexes. Cela pourrait s'arrêter là. Cela devrait certainement s'arrêter là. Je ne me sens pas légitime, pas à la hauteur de ces sentiments, offerts dans toute leur sincérité, leur crudité, leur violence parfois. C'est dur et c'est beau à la fois. Je retiens la beauté, la conception que j'en ai, celle qui dénoue les cœurs et gomme les différences visibles. La beauté dépend de ce que l'on ne voit pas, le visible de l'invisible. J'ai la sensation que j'apprends de ces gens que je ne connais pas, qu'ils savent tout de moi, qu'ils incarnent l'essentiel, la chair à nu, une même humanité, une poussière commune. Cela devrait commencer par leurs mots, cela suffirait à mon sens, mais j'ai promis. Ce matin-là, je me lève très tôt, comme à l'habitude, il fait beau, je prends mon café dehors, assis au soleil près de l'érable, un cahier et un stylo à portée de main. Un filet de fumée sort du mug, agacé par la brise, et s'entortille autour d'un axe imaginaire comme un petit animal chatouilleux. J'attends que le café refroidisse un peu. Perdu dans mes pensées, je perçois bientôt un mouvement au loin sur le chemin bordé de grands genêts fleuris en contrebas. Un écureuil monte dans ma direction. Il court sur un mètre ou deux, s'arrête, épie un court instant, museau au vent, puis repart au même rythme. Parvenu à une dizaine de mètres de moi, il se dresse sur ses pattes arrière. Je demeure figé, tout comme le dessin de Bart Simpson sur le mug que je serre dans ma main. L'animal a peut-être senti le café ou bien ma propre odeur, à moins que ce ne soit le mélange des deux qui contrarie sa perception. Je suis l'intrus, une courbure imprévue dans son espace-temps. Ainsi immobile, il ressemble à une statuette d'argile, une délicate babiole à suspendre quelque part, en attendant que ce bon vieux Geppetto vienne lui donner vie. Petit pantin d'argile, seuls ses yeux noirs clignent à intervalles réguliers. Je l'observe. J'essaie de me fourrer dans sa tête, d'imaginer ce qu'il peut réellement ressentir et voir en cet instant. Se sent-il agressé par ma présence? Y a-t-il plus de curiosité que de peur dans ce regard noir? S'il me voit, me voit-il tel que je suis, un humain pesant, cloué sur une chaise en train de boire du café? Voit-il un animal différent, ne représentant aucun danger pour lui, ou bien un prédateur potentiel, quelqu'un à craindre? Je n'en sais rien. Puis il délace lentement ses muscles. Il comprend qu'il n'a rien à craindre de moi. On dirait même qu'il sourit, amusé par ma présence sur sa route. Il repose ses pattes avant sur le sol, se dirige vers l'érable et se met à grimper au tronc en tournant autour, comme s'il épousait la fumée du café, comme s'il avait la capacité d'utiliser sans effort cette corde immatérielle. Ce lien entre nous, en lequel je veux croire. Je relève doucement la tête pour suivre son ascension. Arrivé à mi-hauteur, il bifurque sur une grosse branche perpendiculaire au fût. Ce petit animal, si fragile en apparence, me domine désormais depuis son perchoir. Il a rejoint son élément. Il paraît insuffler un supplément de vie à l'arbre, l'expression d'un bonheur commun dont je suis exclu. Je regrette de ne pas être capable de les rejoindre pour vivre une intime complicité. Je me sens incomplet d'être ainsi détaché de ce monde dont mes lointains ancêtres faisaient partie intégrante quand nous étions aussi la nature. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, Bart Simpson se moque de moi, et le café est maintenant froid. Tout a changé. L'écureuil trottine vers l'extrémité de la branche, qui se met à ployer, tel un sion ramenant un poisson de belle taille. Puis il saute et se réceptionne sur une branche inférieure avec une agilité surnaturelle. Il disparaît au cœur de la végétation. Je crois un moment qu'il est descendu sans que je ne le remarque, puis il réapparaît, sa petite tête enchâssée dans le feuillage, comme affublée d'une épaisse crinière de verdure. Il me regarde. Je sais qu'il me voit désormais. J'ai le sentiment qu'il m'accepte dans son environnement, qu'il me fait confiance pour ne rien gâcher de cet équilibre précaire que nous venons de créer ensemble. Je veux y croire. Je ne sens plus le mug dans ma main. Je ne sens plus mon corps. J'ai oublié mes petites misères passagères. Plus tard, le soleil est déjà haut dans le ciel. J'attrape mon cahier, je l'ouvre, lisse une feuille vierge, secoue mon stylo au-dessus du sol pour faire venir l'encre, et un bouquet de gouttes noires imprime aussitôt la terre. J'attends le premier mot. J'ai promis. Je regarde l'érable. L'écureuil a disparu. Il n'est pas loin, je le sens proche. Je n'ai toujours pas bougé de ma chaise, non pas que j'en sois incapable, mais l'essentiel n'est pas dans le mouvement de mon corps. L'essentiel est ailleurs, dans les prouesses d'un petit animal à la frêle silhouette et pourtant conquérant. Ce petit animal qui m'a fait comprendre que dignité et noblesse naissent de ses apparentes faiblesses, de nos sentiments mis à nu. De la poussière que l'on est tous capables d'essaimer, notre propre poussière contagieuse. Je dois tenter de grimper dans l'arbre, même maladroitement, laisser venir l'écureuil à moi, effacer tout comme lui un peu de la distance qui nous sépare pour que nous puissions faire cause commune, unir nos forces afin d'éprouver le sacré de la vie. Et j'ai promis. Franck Bouys.
Le bonheur. Introduction. Lorsque ma chère et tendre épouse, par un soir de discussion passionnée sur le désir d'aller toujours plus loin dans notre combat pour le handicap, me fit part de cette idée, mon cœur et ma tête, pourtant alanguis en général lorsqu'il s'agit de conversations vespérales, ne ressentir ni l'un ni l'autre balance d'une hésitation. Cette idée, non seulement novatrice, était brillante. Si les personnes en situation de handicap mental commencent à être véritablement représentées dans certains arts piliers de notre culture, l'idée de leur donner la plume en compagnonnage littéraire n'avait jamais encore été exploitée. Incroyable. Je fus immédiatement convaincu par la beauté et l'excitation de cette première. Sa beauté résidait, de prime abord, dans la simplicité du concept, son excitation, dans l'opportunité de devenir des novateurs. Mon ego me ferait mentir si je vous disais que je ne pensais pas à moi en tant que colon, mais je vous assure avec sincérité que je pensais surtout à eux. Eux, ces exclus, ceux que l'on montre encore trop du doigt, ou, à défaut d'un geste aussi dur, ceux sur qui trop de regards indélicats s'attardent encore. Nous avons un enfant handicapé, un enfant différent, dit-on de nos jours par convention de pudeur orale. Et, au-delà du fait que c'est une aventure extraordinaire et magnifique, cela fait de mon épouse et de moi-même des combattants. Combattants de tous les jours, bien sûr, car la belle aventure est parsemée d'obstacles à surmonter connus seulement de ceux qui la vivent, mais combattants idéologiques aussi. Là encore, les défenseurs d'une cause sont souvent ceux qui sont confrontés à ces difficultés. Ainsi, l'idée étincelante que venait de me soumettre ma femme fut adoptée en moins de temps qu'il ne lui en fallut pour la verbaliser, et nous passâmes le reste de la soirée, voire de la nuit, à la décortiquer, avec tant de conviction que nous eûmes l'impression fougueuse et prétentieuse de lui insuffler ses premières bouffées d'oxygène, de lui donner déjà la vie. Après quelques semaines de recherche en faisabilité et autres procédures administratives, l'idée devint un projet, approuvé avec un enthousiasme non dissimulé par tous ceux qui allaient y prendre part. La locomotive était lancée. Les voyageurs se précipitaient dans les wagons avec engouement, et rien ni personne n'allait pouvoir lui barrer la route. Il était temps que les handicapés mentaux se déshabillent et couchent sur papier leurs sentiments, comme les autres. Et maintenant que tu tiens ce livre ouvert entre tes mains, cher lecteur, chère lectrice, il est temps pour toi de découvrir, si tu l'ignores encore, à quel point ces gens différents ne le sont pas, à quel point ces personnes anormales ne l'ont jamais été. Il est temps que tu tournes les pages et que tu découvres l'inconcevable réalité d'un monde bien plus beau que celui qui t'entoure. Un monde où les êtres qui le peuplent sont d'une vérité si probe et si touchante que l'on en deviendrait jaloux, tant les rapports humains y sont simples et faciles. Alors, bienvenue dans le train de l'inconnu. Accroche ta ceinture, parce qu'il se peut que ça secoue par moments. Car, maintenant que tu commences à le comprendre, les handicapés mentaux, tout comme nous, ne sont pas épargnés par la lame brûlante des injustices amères, des violences foudroyantes. Leur sensibilité, en revanche, à l'instar de leur candeur et de leur sincérité, est exacerbée. Cette lame est donc plus tranchante pour eux, et les cicatrices qu'elle laisse dans leur peau fragile se referment plus difficilement que le tienne, tu peux me croire. Prends ce train en marche. Ce train contribuera, je l'espère, à ouvrir un peu plus tes œillères, à défaire un peu plus tes convictions bancales, tes doutes approximatifs, tes peurs compréhensibles. Monte dans un wagon, n'importe lequel. L'amour, le désir, la colère, le bonheur, le regret, qu'importe. Tu y trouveras la clé qui ouvrira la porte de ta conscience et balayera tes croyances infondées. En t'asseyant dans ces sièges plus ou moins confortables, je peux t'assurer que tes émotions exploseront et que, par un doux miracle de transposition et d'empathie, tu découvriras la force de ce monde authentique, porté par des personnes surprenantes, vraies, loyales, des personnes qui ne connaissent ni le mensonge, ni la perversion. Je te souhaite de les aimer comme je les aime, si tu savais comme je les aime, si seulement tu pouvais toi aussi, à la lecture de ce livre, lever enfin ce voile plombé de certitudes sales et de dogmes en carton-pâte, alors tu n'aurais plus peur. La disgrâce des idées préconçues enlaidit tant la candeur du monde. Peut-être, une fois ce voile ôté, découvriras-tu l'évidence d'un éclat insoupçonné. Peut-être alors, souhaiteras-tu rester dans ce train, à nos côtés. Tu apprécieras sûrement l'exemption de tout ce qui complique ta relation avec tes semblables, avec ces gens normaux, hors de ce train. Et peut-être, finalement, auras-tu envie de connaître ces âmes sensibles à ton tour. Viens, lecteur, lectrice, assieds-toi, je t'en prie. Prends place dans ce train d'aller laisser pour compte, des exclus sans piternel. Regarde le paysage défilé et parcours les pages. Pose tes yeux sur les lignes et dépose ton cœur aux côtés de ces autres. Abandonne ta peur de la différence et vois comme le monde n'en devient que plus beau. Moi qui côtoie ces gens-là, je peux t'assurer d'une chose. Ce que tu leur donnes, ils te le rendent au centuple. Et l'empreinte de leur sourire suffit à t'inonder de joie pour longtemps. Ils ne connaissent ni la triche, ni le superflu. Ils sont le remède à la honte, à l'arrogance, à la haine et à la corruption. Ils sont amour. Et cet amour, cher lecteur, chère lectrice, te portera si haut que tu n'en sortiras que grandi. Alors regarde, sens, touche, souris, parle, danse avec eux. Libère tes craintes. N'aie pas peur. Tu les connais déjà sans le savoir, puisqu'ils sont comme nous. Enfin, ils sont un peu mieux que nous, en vérité. Mais je ne doute pas qu'à leur contact, main dans la main, page après page, tu deviennes meilleur à ton tour. Car l'enfant que tu as été, celui qu'ils sont encore, n'est jamais bien loin. Il attend, souvent, que l'on caresse pour lui les cordes sensibles de l'amour, pour libérer au grand jour ce qu'il y a de meilleur en nous. Anthony Signol. La fille voleuse de femmes. Je fais partie de ces gens différents, ceux qui rencontrent des difficultés face à ce qui n'en est pas pour la grande majorité d'entre vous. Mais contrairement à la plupart de mes semblables, il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'à 9 ans, j'étais sur le même chemin que les autres. Même progression, même rêve, même destin. Puis les oreillons me sont tombés dessus, et avec eux, pernicieuses conséquences, une méningite. Et les séquelles qui vont avec. Adieu rêve de vie normale, adieu destin commun, bonjour les difficultés. L'école est donc devenue un IME jusqu'à mes 18 ans. Mes études supérieures se sont transformées en garde de personnes âgées pour gagner 3 sous. Et mon appartement universitaire s'est finalement révélé être ma chambre d'enfant, dans la maison familiale. Je suis la benjamine d'une fratrie de 3 frères et 2 sœurs. Eux n'ont pas eu de méningite. Eux ont eu droit à cette normalité. C'est ainsi que je les ai vus quitter le nid familial, les uns après les autres, tandis que moi, la différente, petit oiseau fébrile, je restais dans ce cocon protecteur. 12 prisons, cages dorées, dépendances bienfaitrices. Prenez tous les oxymores que vous voudrez, ils me parleront. Mon père est décédé lorsque j'avais 45 ans. De 3, nous sommes passés à 2, maman et moi. Puis à 1 et demi, maman a décliné. Son état de santé catastrophique m'a enchaîné à elle. La dépendance a changé de camp. Je suis devenue sa protectrice. Je veillais sur elle. Je portais sa déchéance physique à bout de bras. Pas si fébrile que ça, le petit oiseau. Puis maman est partie en maison de retraite médicalisée à Vigeois. Finalement trop lourde pour le petit oiseau. Toutes ces années auprès de ma mère, d'abord pour mon bien, puis pour le sien, m'ont volé mon statut de femme. Jusqu'à 50 ans, je n'ai eu que celui de fille. La fille que j'étais a volé la femme que j'aurais pu être. Ma mère n'aurait jamais supporté que je rencontre un homme qui m'aurait enlevé à elle. Pas d'homme, donc, et pas d'enfant. C'est ainsi, et même si je suis fier d'avoir été là pour elle, j'ai parfois envie de hurler, à mes frères, à ma sœur, au monde entier, que c'est injuste. Que je n'avais pas demandé à cette méningite de me tomber dessus. Que je n'avais pas à rester. Plus que les autres. Le sacrifice que j'ai fait, aucun de mes frères et sœurs ne l'a fait. Et pourquoi moi? Parce que j'étais plus fragile? La belle affaire. Lorsqu'un sacrifice doit avoir lieu, ça arrange bien du monde que l'on ne tire pas à la courte paille. Mais le poids sur mes épaules s'est envolé avec le départ de maman. Et là, soudainement, à l'âge de 50 ans, une chose incroyable, jusque-là inconnue, s'est présentée à moi. La liberté. L'indépendance. J'aime ce mot. Indépendance. Sa sonorité a résonné en moi, dévoilant sous mes yeux effrayés la folle démesure de sa signification. Le symbole était vaguement assimilé, mais sa réalité si terrifiante. Enfermer un oiseau dans une cage toute sa vie, puis, un beau jour, ouvrez la cage. Vous serez surpris de le voir y rester, s'y blottir face au danger de l'inconnu. La liberté n'est plus la même si elle survient trop tard. Il faut l'apprivoiser, faire sa connaissance. Et quand on est différente, le combat est encore plus rude. Vous comprenez ? Cependant, lorsqu'on lance un oiseau en l'air, même s'il n'a jamais déployé ses ailes, il faut bien qu'il improvise. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mes ailes, ses ailes froissées, ankylosées, inexpérimentées. Et je ne suis pas tombé. J'ai découvert la joie de volter, puis très vite, de voler. Cela fait 10 ans que je vole, libre d'aller çà et là, à ma guise. Je travaille dans un ESAT, en blanchisserie. J'ai découvert le travail en équipe, moi, la solitaire, et le bonheur que ça procure de s'épanouir dans l'union. C'est un travail difficile, physique, mais nous sommes toutes dans le même bateau, et nous en sortons avec brio. Nous faisons un excellent travail, aux yeux de tous. Je suis généreuse, j'aide les autres instinctivement. J'ai un appartement, mon appartement, équipé et décoré par mes meubles, acheté avec mon argent, gagné grâce à mon travail. Indépendance. Quelle belle sonorité, n'est-ce pas? Et je voyage aussi, avec mon amie, Roseline. Depuis maintenant 3 ans, il m'a fallu du temps, mais je n'ai plus peur. Le pays catalan, La Rochelle, l'Alsace, l'Italie. Je n'aurais jamais imaginé une telle liberté possible. Et puis je lis, beaucoup, maintenant que j'ai du temps pour moi. J'adore les livres. Je vais au cinéma, au restaurant, à Toulouse ou à Limoges faire les soldes avec ma voisine Marguerite. Elle a le permis. Je ne l'aurai jamais. Je connais mes limites, mais qu'importe. Mes amis l'ont et je peux en profiter. Maman nous a quittés il y a 2 ans. Elle s'est éteinte dans cet établissement où d'autres avaient pris mon relais. À la fin, elle ne me reconnaissait plus, moi qui avais passé la plus grande partie de ma vie à ses côtés. Moi, sa propre fille, celle dont les mains avaient passé le plus de temps à caresser les siennes. Elle est indigeste et affreuse, cette réalité de se retrouver face à sa maman, et de ne voir aucun éclat de souvenir, de lucidité, ne serait-ce que le temps d'une seconde. Du vide pour toute reconnaissance. Vous me croiriez si je vous disais que je me suis senti libéré pour de bon ce jour-là. Triste, mais libéré. Tous les soirs, j'embrasse la photo de mes parents avant de me coucher. Je les aime. Je veux croire que, de là-haut, ils sont heureux de voir que leur petit oiseau est enfin libre, heureux, et jouit de son indépendance. Indépendance. Quel mot magnifique. Noad. Dans le mille. À bien y réfléchir, le bonheur, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai du mal à le définir. Et si cela consiste à se sentir heureux, alors je crois que je peux dire que je n'atteins cet état que dans une seule circonstance, lorsque je suis à l'aise. Ça rabaisse sérieusement l'échelle du kiff, hein? Peut-être, mais qu'importe. Cet état, je l'empoigne tellement rarement que je peux vous garantir qu'il me fait du bien quand je l'ai enfin entre les mains. Qu'importe que mon Everest à moi ne mesure que 300 mètres. Lorsque je l'ai gravi, je suis enfin à l'aise. Et il ne m'en faut pas plus. L'ennemi du bonheur, pour moi, c'est le stress. Et en matière de stress, je m'y connais. Je suis un parfait représentant du produit, un commercial hors pair. Ce truc me colle à la peau depuis tellement longtemps que je n'ai même pas besoin d'avoir des échantillons sur moi. Je pourrais vous en vendre des kilos qu'il m'en resterait assez pour le reste de ma clientèle. Parole d'expert. J'ai horreur de mal faire. Je suis un perfectionniste. Le problème, c'est que je ne suis pas tout à fait doté des bons outils pour me révéler perfectionniste. Combien de personnes dites « normales » peuvent prétendre les avoir, d'ailleurs? Vous imaginez le cauchemar? Ça me rappelle l'histoire de ce poisson qui voulait se rendre tout en haut de cet arbre. Ma vie est une spirale. Je veux tout le temps faire les choses parfaitement. Je n'y parviens pas, parce que la perfection est inatteignable. Donc je stresse. Donc je perds mes moyens. Et la seule chose qui pourrait me calmer, c'est de parvenir à très bien faire, pour me sentir à l'aise. Mais c'est impossible. Et ça recommence. Sympa, non? Surtout pour moi, Gilles, 54 ans, commercial en stress. Quand je vous dis que je sais de quoi je parle, je vis au centre habitat de Tulle et je travaille au service espace vert de l'ESAT. J'aime mon boulot, surtout quand, à la fin de la journée, le moniteur me félicite sur mon travail. Un travail bien fait, ça c'est dans mes cordes. Là, je suis à l'aise. C'est peut-être pour ça que je préfère la débroussailleuse à la taille de haie. Moins de possibilités de dérailler, d'avoir échoué. Le débroussaillage, c'est plutôt binaire. À la fin, le boulot est fait, ou bien il ne l'est pas. Point. Pas de risque d'être dans les imperfections. Vous commencez à piger? Mais j'ai parfaitement conscience qu'il faut que je travaille là-dessus. Alors vous savez ce qui me plaît depuis 4 ans? je vous le donne en 1000. Le tir à l'arc. Ouais, je vous vois venir d'ici. Mais pourquoi tu choisis le tir à l'arc, Gilou? Avec les casseroles que tu te traînes, tu choisis le seul sport où il est impossible d'être parfait. Qui peut planter 6 flèches dans le cœur de cible? Personne. Ouais, c'est vrai. Quand je vous dis que c'est un travail sur moi, une thérapie pour m'apprendre à être imparfait et à l'accepter. Nous sommes 3 du centre Habitat à nous rendre les mardis soirs au club des archers de Tulle, à Losloo, à nous mêler au commun des mortels. J'aime la sensation d'appartenir à un groupe. J'apprécie aussi le fait de savoir que dans ce groupe, j'ai un niveau plus bas que les autres, parce que ça me fixe un but, devenir meilleur et m'approcher de leur niveau. Progresser pour parvenir à remonter la pente. Cette foutue pente dans laquelle on m'a posé dès la naissance en me disant « Voilà mec, c'est ton terrain de jeu, débrouille-toi avec ça. » Le tout sans corde et sans crampons. Merci la vie. Je veux sans arrêt la remonter cette pente, pour rejoindre les autres, les gens normaux, qui eux sont en haut, et moi j'ai la sensation de glisser constamment. Cependant, je prends conscience que ce challenge me fait du bien. Il faut parfois soigner le mal par le mal. J'entends souvent « Gilles, tu n'y arriveras pas !» Eh bien, vous savez quoi? Ça me motive encore plus. Étant de nature très stressée, très speed, comme on dit de nos jours, j'aime la concentration que requiert ce sport. Elle m'apaise. Par exemple, lorsque je bande l'arc, il faut que je compte 3 secondes et que j'expire lentement avant de décocher la flèche. Et ça, ça m'aide beaucoup à travailler sur moi, sur mon tempérament toujours trop pressé. Cet effort devient addictif. J'ai mon propre arc, mon carquois, mes protège-bras, ma tenue complète. À l'entraînement, je fais des choses pas mal, mais lorsqu'arrivent les compétitions, en intérieur comme en extérieur, je perds souvent mes moyens. On tire à 18 mètres, 6 flèches. Et vous voulez que je vous dise qui gagne le plus souvent? Le stress. Pourquoi les autres y parviennent et pas moi? Parce que je ne suis pas à l'aise. J'ai peur de faire des bêtises. Et donc je l'ai fait, bien sûr. Mais je sais qu'un jour je parviendrai à triompher de ce challenge, de ce pari avec moi-même. Je réussirai à tirer aussi bien que les autres. Et vous savez quoi? Je commence à comprendre que lorsque ce jour viendra, cette libération ne se limitera plus au tir à l'arc. Ce jour-là, beau comme une flèche fonçant dans le mille, je serai prêt à appliquer ce concept magnifique à la vie de tous les jours. Peut-être alors serai-je prêt, d'une façon ou d'une autre, à réaliser que je suis capable de réussir comme les autres. Alors je serai à l'aise. Alors je serai heureux, à plein temps. Gilles Laurent. Conversation divine. Bonjour, c'est Dieu qui vous parle. Enfin, appelez-moi comme vous voulez. Allah, le Tout-Puissant, le Divin, peu importe. Je suis celui-là. Je voudrais vous parler de Virginie, parce que Virginie est une fleur recouverte de rosée au beau milieu d'un désert brûlant. Virginie a 40 ans, mais je crois qu'elle en a toujours eu 5. Je crois qu'elle s'est arrêtée en toute conscience à cet âge magnifique, parce que la candeur l'a suppliée de ne pas aller plus loin, faute de ne plus voir la magie de la vie telle que je l'ai créée. Alors elle a fait une pause sur le chemin, pour pouvoir jouir de tout, contempler la beauté du monde et la serrer fort, si fort qu'elle en pleurerait à chaque instant. Si vous demandez à Virginie ce qu'elle aimerait par-dessus tout, elle ne vous parlera pas d'argent ou de voyage. Non, elle vous parlera de moi, moi qui suis si important pour elle, car son histoire s'est un peu construite avec moi. Elle vous dira qu'elle souhaiterait me revoir, mais pour de vrai, dans une forêt par exemple, pas dans un rêve. Car ce rêve, elle l'a déjà fait. C'était un rêve magnifique, celui de notre rencontre. Elle a senti ma lumière éblouissante, qui rend presque aveugle, et mon amour inconditionnel l'a pénétrée. Puis je suis apparu à elle avec mes longs cheveux noirs, et j'ai posé ma main sur son visage. C'était chaud et doux. Je l'ai ensuite prise dans mes bras, et Virginie s'est sentie tellement bien qu'elle ne peut pas vous le décrire avec des mots. Virginie a été placée très jeune en famille d'accueil. Née d'une mère juive qui n'a pas eu la force de l'élever, elle a grandi avec ceux qu'elle a appelés papy et mamie, pour bien les différencier de maman. Car maman n'a pas disparu. Maman était là, quelque part, faisant une ou deux apparitions par an, pas plus, certainement parce que plus aurait été trop dur. Lorsque Virginie parle de maman, elle tient les propos suivants. Maman est née dans la guerre, elle connaît la violence. C'est son oncle, le frère de sa mère, qui l'a informé de son obédience judaïque. Et lorsque papy et mamie, catholiques et pratiquants, ont voulu la baptiser, sa maman et son oncle s'y sont opposés. C'est étrange cette incapacité à vous entendre parfois à mon sujet, alors que finalement, vous voyez en moi la même chose, l'amour. Mais passons. Ce qui est sûr, c'est que l'on sent aujourd'hui l'importance de ma présence dans sa vie. Virginie travaille à l'ESAT de Mulaté, près de Tulle. Son activité réside principalement dans le conditionnement. Et quoi de plus beau que de mettre les choses en boîte pour les autres, de faire des paquets cadeaux à longueur de journée. Lorsque vous demandez à Virginie si elle est heureuse, elle n'hésite pas une seconde. La réponse est oui. Oui, elle est pleinement heureuse, entourée de ses dragons qui la protègent. Ces dragons, ce sont ses éducateurs et ses collègues, ceux du centre d'habitat, ceux qui la connaissent, son monde. Elle a confiance en eux. Elle ne craint pas leurs regards, car des regards méprisants, des paroles déplacées, Virginie en a connu et elle en a souffert. Comme ce garçon qui partageait sa balançoire il y a bien longtemps et qui l'a traité de mongole. La blessure est restée très profonde et la cicatrice ne s'est jamais vraiment refermée. Mais aujourd'hui, et malgré la bêtise des autres, Virginie sait jouir pleinement du bonheur de la vie. Elle fait du théâtre, adore la musique, les puzzles, le tricot, le canevas et le métier à tisser. Bien des choses qui nous permettent d'être en pleine conscience, finalement. Mais Virginie est heureuse aussi grâce à l'amour, car Marc-Antoine, son amoureux depuis 4 ans, est grand et beau. Ils s'aiment et se le disent tous les jours. En plus, il est juif et catholique, tout comme elle. Quelle chance! Le bonheur de Virginie rayonne aussi dans ses souvenirs. Les plus anciens remontent à un Noël d'enfance, ce fameux matin où elle déballa ses cadeaux sous le sapin, qu'elle avait elle-même pris soin de décorer. Les Barbie, cette dinette fabuleuse aux 1000 couleurs, les Turbo Rangers, le nounours offert par son oncle, et même cette serviette éponge, commandée par sa grand-mère paternelle. Le tout bercé par les images du Club Dorothée sur l'écran de télévision. Aujourd'hui encore, elle adore replonger dans les souvenirs de ces dessins animés qui l'ont bercé petite. Candy, Casimir, Tom Sawyer. Et puis il y a les souvenirs plus récents. Comme cette journée à Collonges-la-Rouge, où sa tante, son cousin et Marc-Antoine l'ont accompagnée pour fêter ses 40 ans. Tout était parfait. Le temps superbe, la vue magnifique depuis le restaurant, la balade au cœur de ces rues faites d'ocre, de verdure, et surtout, surtout, ce sentiment insondable de protection que Virginie a pu ressentir au plus profond d'elle-même, entourée des siens. Comme cette journée à Disneyland, pour ses 30 ans, où elle a pu embrasser le même jour 2 princes, le prince Eric et Aladdin. Mais quoi de plus naturel, finalement, pour une princesse? Si un génie demandait à Virginie quel serait son unique vœu, elle lui répondrait qu'elle voudrait d'abord le faire sous la pleine lune, parce que ce serait plus beau. Et puis elle vous confierait qu'elle souhaiterait cesser de travailler, pour faire ce qu'elle désire tout le temps. Je crois que Virginie a compris où est l'importance des choses. Je pourrais vous parler de cette âme magnifique toute une journée. Je pourrais vous révéler quelques secrets si vous me le demandiez. Je vous dirais par exemple qu'elle ne dit jamais oui, Virginie, mais plutôt ouais, et que ce ouais renferme une spontanéité qui anéantit tous les maux dont vous souffrez. Je vous chuchoterai aussi qu'elle adore marcher pieds nus, et que c'est certainement parce qu'elle est bien plus connectée à la mère Terre que vous autres, qu'elle se nourrit de son énergie. Vous apprendriez aussi qu'elle adore se faire chouchouter chez l'esthéticienne, et que, lorsqu'elle se fait masser le visage, elle voit des fleurs dans une forêt. J'ai vu ces fleurs. Si seulement vous pouviez les voir. Vous sauriez aussi qu'elle se sentirait perdue sur une île déserte, et qu'elle n'aimerait pas ça. Vous découvririez que la voix de Shakira l'a fait danser sur la table avec Émilie, son éducatrice, lors du réveillon de Noël du centre d'habitat. Lorsque j'ai demandé à Virginie ce qu'elle avait de différent, elle m'a répondu ceci. Je ne suis pas comme les autres, je suis trisomique. Une trisomique, c'est une enfant pas comme les autres, une handicapée. Ma maman a eu un problème. Quand j'étais bébé, dans le ventre de maman, j'ai eu un accident. La plupart des gens sont normaux. Moi, je ne suis pas normal. Nous n'avons pas le même visage. Et j'ai aussi plus de difficultés à apprendre les choses. Lorsque je lui ai confié que je trouvais moi aussi qu'elle était différente, mais parce qu'elle était mieux que les autres, Virginie m'a offert son plus beau sourire. Et quand je lui ai demandé si elle était d'accord avec ça, loin de s'encombrer de fausses modesties et de filtres sociaux embarrassants. Elle m'a répondu « Ouais, je suis d'accord. » Virginie est trisomique. Virginie est un joyau. Virginie est la lumière à suivre dans ce monde obscur. Elle porte dans ses yeux l'amour que nous devrions tous avoir, et dans son cœur, l'espoir fou que nous le trouverons. Virginie Péquet. La chance au quotidien. J'ai toujours eu de la chance. Le bonheur m'a enveloppé de sa chaude étreinte dès ma naissance. Depuis, il ne m'a jamais abandonné. Je sens sa douce caresse sur mon âme chaque matin. Je m'appelle Anne, j'ai 50 ans, et voici ma vision du bonheur. Je suis une enfant gâtée. Malgré mes problèmes de santé, une hypothyroïdie qui me rend hypersensible et nerveuse, qui m'empêche de maîtriser pleinement mes émotions, j'ai eu la chance de naître et de grandir dans une famille aimante et bienveillante. J'ai le souvenir d'avoir vécu un apprentissage de la marche tardif et difficile, mais j'ai eu des parents en or qui m'ont toujours soutenu d'un amour qui m'a porté. Je n'ai manqué de rien. J'ai même le sentiment d'avoir toujours eu ce que je désirais. Mon père, issu d'une famille bourgeoise, était assez pudique vis-à-vis de l'amour qu'il nous portait, lui-même en ayant été privé petit. Ma mère, en revanche, était une femme très tactile, très dévouée et proche de ses trois filles. Hélène et Betty, mes sœurs aînées, n'ont rencontré aucune difficulté, mais je n'éprouve pas la moindre jalousie, ni la moindre rancœur. Elles aussi ont été formidables. Et finalement, la seule chose qui m'ait peut-être porté préjudice est le fait d'avoir été trop couvée, en tant que Benjamine un peu plus fragile. Le bonheur, je l'ai touché, senti, vu, entendu et goûté. Partout. Au travers des pièces de théâtre que nous jouions candidement avec mes sœurs, dans les câlins de Virka, notre dalmatienne qui nous a accompagnés durant toute notre enfance, dans le soleil de l'Algérie qui m'a accueilli de 8 à 12 ans, dans les vibrations de ses musiques orientales, dans le sable de ses plages brûlantes, dans le vert ondulant de ses palmiers magnifiques ornant les avenues d'Annaba, dans le souvenir des mariages de nos amis qui émerveillaient la jeune fille que j'étais, dans celui des réveillons de Noël que nous fêtions les bras nus et les fenêtres ouvertes. Le retour en Dordogne, à 13 ans, s'est avéré moins agréable. Les 4 années de collège m'ont fait connaître l'ostracisme. Ma différence commençait peut-être à se dévêtir, à se révéler aux yeux des autres. J'ai donc mis un terme à ma scolarité, restant chez mes parents. J'ai intégré un foyer d'insertion professionnelle à Sarlat à 29 ans, de bons souvenirs, en présence de copines qui partageaient les mêmes petits soucis que moi, et qui, ainsi, me comprenaient. Nous étions 3 par appartement. La complicité était là, bienfaitrice. Puis vint ce premier grand bonheur, le permis de conduire. Le code en une fois et le permis en 2. L'explication amusante de l'échec du premier examen mérite qu'on s'y attarde. Savez-vous pourquoi j'ai échoué la première fois? L'inspecteur trouvait que je passais beaucoup trop près des voitures en stationnement. En fait, après des tests chez un ophtalmo, il s'est avéré que j'y voyais très mal. Une paire de lunettes sur le nez et hop, le permis dans la poche au second examen. Je me souviens encore de mon premier trajet, seul au volant de mon AX, Sarlat-Périgueux. Mon père est venu jusqu'à Sarlat pour me suivre avec sa propre voiture. Certes, il ne l'aurait pas fait avec mes sœurs, mais là encore, je ne lui en ai jamais voulu. C'était protecteur. Faire comme les autres, voilà la victoire du combat que je mène depuis toujours. Être autonome, me déplacer en voiture, avoir mon appartement, travailler. Le bonheur, je ne le cherche pas plus loin. Il est là, et il fait un bien fou. J'ai été femme de chambre en entreprise adaptée, puis cuisinière. Mais le rythme y était trop difficile. Aujourd'hui, je travaille à l'ESAT de Malemort, où j'ai enfin trouvé ma place. Nous œuvrons dans la sous-traitance. Les disques d'embrayage, les éléments de jeu de société, les pièces de carton à assembler, les broches à fusibles, j'en ai vu passer des millions. Ça me plaît. Mes collègues sont formidables. Et leurs différences, plus ou moins prononcées, font la richesse de notre groupe. J'ai accès à un poste de contrôle plutôt valorisant. C'est génial. Cependant, le bonheur m'a montré d'autres facettes, encore plus intenses. J'ai connu des instants de fierté, par 2 fois. Le premier, lorsque l'on m'a remis mon diplôme de RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience. Le souvenir est encore chaud. L'amphithéâtre bondé, le tapis rouge, mon nom appelé au micro, les photos, les yeux rivés sur moi, et ce papier que l'on m'a tendu, symbole de bien des efforts, récompense exaltante d'une normalité acquise et reconnue. Les larmes ont failli couler. Le deuxième, le jour où j'ai acquis le statut éphémère mais bien réel de conférencière. Une intervention lors d'un colloque sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap à l'université de Limoges. Là aussi, une salle comble et un micro. Mais ce coup-ci, il était dans mes mains, et c'était moi qui expliquais, qui apprenais aux autres, aux personnes dites normales. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais ma victoire. La victoire d'un combat pour la reconnaissance d'une appartenance à une seule et même espèce, celle d'êtres humains, riche de ces petites différences qui la nourrissent au lieu de l'affaiblir. Une idée admirable et somptueuse, où le respect et l'amour sont les maîtres mots, piliers d'un avenir lumineux qui nous élèvera tous. Anne Boissonna. Innocence. Fermez les yeux. Voilà. Inspirez maintenant, puis expirez lentement. Encore une fois. Voilà. Détendez-vous. Bien. Laissez-moi vous prendre par la main. Vous voulez bien? Parfait. Allons-y. Est-ce que je suis heureuse? Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Je crains que ma conception du bonheur soit bien loin de la vôtre. Pour que vous compreniez, je crois que vous devriez juste me laisser vous guider dans mon monde. Ne dites rien. Observez simplement. Observez la simplicité dans toute sa beauté. Débarrassez-vous de la complexité de ce qui construit votre propre bonheur. Posez tout ça. Lâchez les acquis. Laissez ici votre vécu, votre histoire personnelle, votre conception du plaisir. Bien. Et maintenant, renaissez avec moi pour réapprendre à vous émerveiller de ce que votre parcours personnel, votre expérience, votre vie vous ont fait paraître banal aujourd'hui. C'est un exercice difficile, vous savez. Vous êtes prêt à faire cet effort? Parfait. Ne lâchez pas ma main et redevenez un enfant, sinon vous passerez à côté du paysage et vous ne comprendrez pas mon bonheur. Voici tout ce qui me fait du bien. C'est un premier pas vers le bonheur, enfin je crois. Mes amis, avec qui je vais parfois boire un verre en ville, la musique, Matt Kopora, Kenji Girac et bien d'autres. Et danser, j'aime danser, j'adore danser. Une fois par trimestre, nous sommes une petite dizaine du centre d'habitat à nous rendre au Cardinal, une boîte de nuit à Brive, accompagnée par 3 éducateurs. J'adore aller dans cet endroit où je peux écouter cette musique forte et danser. J'aime les étoiles, et encore plus les étoiles filantes. Est-ce que vous savez qu'il faut faire un vœu lorsqu'on en voit une? Quand j'étais petite, j'adorais regarder les étoiles par ma fenêtre. Ce que j'aime dans les étoiles, c'est qu'elles brillent. J'aime tout ce qui brille. Les paillettes, les bijoux. Et puis l'or. L'or, c'est magnifique. Parce que, sous la lumière, ça brille presque autant que les étoiles. J'aime Bruno. Bruno, c'est mon amoureux. Vous le voyez là-bas? Vous avez vu comme il est grand et costaud? Bruno, je lui dis que je l'aime et il me répond qu'il m'aime. C'est beau, vous ne trouvez pas? Bruno, il travaille à l'ESAT. Il me raconte souvent des histoires qui me font rire. Il vient me rendre visite les mardis et samedis soirs. Bruno aime la musique, le bowling, les films rigolos et jouer sur sa tablette. Le monde est bien fait quand même, comme moi. J'aime aussi les soins du visage et les massages chez l'esthéticienne. Des fois, ça me fait des guilis parce que je suis très chatouilleuse. Et la mer, j'adore la mer. Je suis déjà allée à La Rochelle, et je me suis baignée là-bas. J'adore nager. Je vais souvent à la piscine. J'aime les dauphins. Je n'en ai jamais vu en vrai, mais ce serait un rêve de nager avec les dauphins. Pas vous? J'aime le soleil. J'adore rester au soleil. Mais des fois, c'est tout rouge sur moi. Ça me fait rire. Je vous ai dit que j'avais tout le temps le sourire? Il paraît que c'est agréable pour les gens qui me regardent. Vous trouvez, vous aussi? Je ne pose mon sourire que lorsque je suis triste, quand les gens meurent sans me rendre triste. Quand Johnny est mort, j'étais triste. Mais c'est normal d'être triste quand quelqu'un s'en va au ciel, vous ne trouvez pas? J'aime les coquillages sur le sable. Et, oh là-bas, c'est papa et maman. C'est normal qu'ils soient là puisque vous vous trouvez dans le monde que j'aime. Ils se sont séparés quand j'étais petite. J'étais triste au début, mais maintenant ça va mieux. Le nouveau copain de ma maman s'appelle Frédéric. Papa, lui, n'a pas retrouvé d'amoureuse. Et là-bas, c'est mon grand frère Mathieu. Je vous ai dit que je suis tata? Ma nièce s'appelle Louane, c'est la fille de mon frère. À côté de lui, c'est Eva, la chérie de mon frère. Eva a un chien qui s'appelle Hector et une lapine qui s'appelle Blanchette. Oh, regardez ici, ce sont mes souvenirs. Les souvenirs que j'aime. C'est pour ça qu'on me voit en train d'aider à préparer le repas de Noël. Il y avait souvent tout ce que j'aime. De la viande, des crevettes, et ces tout petits œufs rouges. Vous avez déjà pris le temps d'observer comme ils sont jolis, ces œufs? Et là, je suis en train d'ouvrir mes cadeaux. Une poupée Barbie, des bijoux. Et, oh, j'avais oublié, regardez. C'est la robe à paillettes que maman m'avait offerte, et la chaîne en or avec des cœurs que j'aimais tant. Vous voyez, vous commencez à sourire. Je suis heureuse de vous voir comme ça, vous savez. Ne lâchez pas ma main, surtout. On continue, d'accord? Ah, nous arrivons dans la partie des rêves. Oh, il y a Paris. C'est normal, je rêve de voir la tour Eiffel. Il paraît qu'elle monte si haut qu'on croirait qu'elle touche le ciel. Et là, ce sont mes rêves, ceux que j'ai déjà faits. Il y a mes anciens amis, ceux de l'IME de Sainte-Fortunade. Nous nous promenons toujours dans mes rêves. Et puis il y a celui-là aussi, où je suis dans un manège qui va vite, très très vite. Je crois qu'on appelle ça des montagnes russes. C'est bizarre comme nom, vous ne trouvez pas? Tiens, un coffre. Oh, regardez, il y a tout ce que j'aime dedans, mis n'importe comment. Mes dessins de chanteurs. Je vous ai dit que je dessinais les chanteurs que j'aime? Et vous, vous dessinez aussi? Oh, des jolies pierres, et du bleu, j'adore le bleu, pas vous? Des bonbons, des bracelets en caoutchouc. Ceux-là, c'est moi qui les ai faits. Vous savez faire des bracelets? Je pourrais vous apprendre si vous le voulez. Des chiens, des chats! J'aime beaucoup caresser les chiens et les chats, et les lapins aussi. J'aime ce que ça fait sous les doigts, et là, au creux de la main. Vous avez déjà vraiment senti cette douceur sur votre peau? Oh, ça y est, votre visage! Il sourit, complètement. C'est un vrai sourire que je vois là. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Je suis heureuse pour vous. Continuons. Ah, la baguette magique! Non, ne vous approchez pas. On ne peut pas la prendre. Il faut juste penser très fort à ce que nous souhaiterions si nous avions droit à un souhait. Un seul. Ce serait quoi le vôtre? Vous voulez connaître le mien? D'accord, je vais vous le dire. Mais c'est un secret. Moi, j'irai au paradis. Et j'y jouerai de la guitare. Là-bas, je saurai en jouer. Et j'y resterai pour toujours. Parce qu'il est magnifique, mon paradis. Il est parfait. Comment? Vous voulez que je vous le décrive? D'accord. Mais nous allons finir par ça. Car la visite est terminée. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais vous lâcher la main, puis vous allez continuer à marcher droit devant vous. Et vous y arriverez. C'est mon dernier cadeau. Vous entrerez dans mon paradis en guise de sortie. Allez, je vous le décris, mais je vous lâche la main. Avancez. Regardez tous ces animaux. Ils sont tous là. J'aime les animaux, surtout les dauphins et les tigres. Les animaux ne peuvent pas vous faire de mal, pas comme les hommes. C'est pour ça que je les aime. Non, ne vous retournez pas. Regardez droit devant vous. Contemplez mon paradis. Regardez toutes ces fleurs. C'est joli, les fleurs. Mes préférées, ce sont les roses, les jonquilles, les violettes et le muguet. Et vous voyez tous ces arbres fruitiers? C'est beau, un arbre. Vous avez déjà vu quelque chose de plus beau qu'un arbre? Admirez toutes ces maisons en pierre, au toit marron, entourées de tous ces jardins fleuris. Et voici les gens. Mais il n'y a que des gentils, rassurez-vous. Vous pouvez les approcher. C'est ma famille, ce sont mes amis. Ils sont là, près de la rivière. Ils sourient eux aussi. C'est beau, un sourire. Ah, les voilà. Il ne manquait plus qu'elles. Les étoiles. J'aime les étoiles. Les étoiles sont magnifiques. Avez-vous déjà regardé briller les étoiles? Céline Allaire.
Le cœur des hommes révélé par l'espéranto. La dernière fois que je ressentis un sentiment de bonheur, c'était en décembre 2017, durant la Hunulara El Semanchano, ou en abrégé la JES, qui se déroulait à Szczecin, en Pologne. J'étais dans une grande école, accueillant de nombreux Polonais, Allemands, Hongrois, hollandais, russe, anglais et français. La journée, lorsque je croisais quelqu'un dans les couloirs, cette personne me disait « Saluten » et je lui répondais « Saluten ». C'était un grand bonheur de pouvoir, par exemple, aborder une fille sans que celle-ci vous rejette d'office croyant que vous la draguez. On est bien loin de ces histoires de harcèlement de rue et des techniques de drague faisant parfois usage de la PNL, programmation neuro-linguistique. Un ami m'avait dit de me renseigner sur le langage des femmes pour pouvoir faire des rencontres, mais je ne mange pas de ce pain-là. Quitte à avoir des relations, je préfère qu'elles soient saines et simples plutôt que ce que l'on veut nous faire passer pour naturel alors qu'il n'en est rien. Alors d'accord, de par mon statut d'autiste Asperger, je souffre d'une cécité sociale qui me fait passer pour un extraterrestre. Et de ce fait, les codes sociaux sont pour moi toujours calculés. Ce qui est inné pour les gens d'un point de vue social ne l'est pas pour moi, comme par exemple le fait de regarder les gens dans les yeux. Ma mère m'a longtemps expliqué que c'était mal poli et m'a appris à regarder dans les yeux. Mais j'estime avoir le droit de ressentir le bonheur d'être moi-même et de me comporter d'une manière naturelle qui est la mienne. Je ne veux pas avoir à anticiper tout ce que la personne en face de moi va dire comme si j'étais à un entretien d'embauche. Je veux juste communiquer avec cette personne, simplement. À Szczecin, les relations étaient aussi simples et agréables que l'on pouvait s'y attendre dans ce genre de rencontre. J'en suis venu à me demander comment cela se fait qu'en espéranti, lieu où l'on parle l'espéranto, tout le monde se parle aimablement, vit en harmonie, de manière bien urbaine, et qu'en dehors, c'est le contraire. Cette langue réunirait-elle des personnes qui ont un idéal de paix? Comment peut-on recevoir le meilleur de l'humanité en l'espace de 3 jours, alors qu'on nous abreuve quotidiennement d'horreurs innommables à la télévision et dans la presse? Le jeudi soir, après le cours de la Instruista Ternado, entraînement à l'enseignement, et après avoir mangé, j'étais monté à l'étage où l'on pouvait trouver le programme de la semaine, des jeux de société, le café, etc. Je m'étais assis à une table sur laquelle étaient disposés du thé et du café lorsque vint s'asseoir à côté de moi une jeune Anglaise avec une coupe de cheveux à la Mireille Mathieu et des paillettes sur les paupières. On se salua mutuellement d'un « Saluten ». Convaincu que je l'avais déjà vu quelque part, je me permis de le lui dire, ce à quoi elle me répondit « Ah, peut-être », en espéranto bien sûr. Ce n'est qu'à la fin du séjour que je me suis rappelé où je croyais l'avoir vue. Elle ressemblait beaucoup à la fille d'une affiche sur la contraception qu'on peut voir à la Sécurité sociale. Heureusement que je ne lui ai pas dit ça. Le concert eut lieu plus tard dans la soirée. D'habitude, je ne vais pas au concert. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas. Une fois assis, j'ai très vite apprécié la musique. J'avais un grand sourire. C'était une flûtiste et un guitariste qui jouaient une musique plutôt bavaroise. Puis, à la suite de ça, est venu un accordéoniste qui a chauffé la salle et nous a fait danser jusque tard dans la soirée. C'était la fête, une vraie fête. Pas une de ces fêtes de Noël hypocrites où on va dans sa famille et qu'on se rend compte qu'à part les liens du sang, il n'y a rien qui nous unit. Les relations avec ma famille sont généralement superficielles. En plus de ça, au moment de prendre des décisions importantes, les choses ne sont pas vraiment définies. Il y a un réel manque de pragmatisme, comme s'ils ne voulaient pas assumer certaines responsabilités. Le lendemain midi, après le repas, j'étais devant 2 charmantes polonaises, et l'une d'elles m'a dit « Ek parolu, mets-toi à parler ». C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les interactions sociales, surtout lorsque celles-ci sont du niveau du taillage de bout de gras. Or là, ce n'était pas le cas, et je me suis mis à leur poser des questions. Je leur ai demandé de quel pays elles étaient, ce qu'elles faisaient dans la vie, et ainsi de suite. Puis vint un autre grand moment de bonheur. Le soir, après avoir mangé en compagnie de ces 2 polonaises, l'une d'entre elles cherchait une chanson sur son téléphone pour la Internacia Vespero, la soirée internationale. C'est le genre de soirée durant laquelle les gens peuvent présenter des spécialités de leur pays. L'autre fille s'était présentée en français. Là, je me suis émerveillé. C'était magique. Comme quoi la citation de Nelson Mandela est vraie. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, cela entre dans sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, cela va droit dans son cœur. Elle prononçait bien les quelques mots de français qu'elle avait appris. Elle conjuguait à toutes les personnes les verbes être et avoir, et je la corrigeais si besoin. Sinon, je la complimentais. Après ça, je retrouvais cette Anglaise avec qui j'avais un peu discuté la veille. Elle me parla d'elle, C'était la première fois qu'elle venait à ce genre de rencontre. Elle aimait beaucoup parler et elle avait commencé à apprendre l'espéranto avec Duolingo un an plus tôt. J'étais très content qu'elle me parle. Le fait de pouvoir parler avec quelqu'un comme ça, naturellement, sans qu'on attende quoi que ce soit de l'autre, c'est la base d'une relation saine. À mon avis, j'aurais du mal à parler avec une fille dans la rue en France de la même manière. Après la discussion, le concert commença et elle me proposa qu'on y aille ensemble. Ce soir-là, au programme, c'était du métal et ça faisait vibrer la salle et mes oreilles. Après, il faut aimer. En revenant du concert, je me suis dit que je devrais apprendre à me présenter en polonais pour rendre l'appareil à cette jeune fille qui m'avait parlé dans ma langue maternelle. Et ça tombait bien, car pour le voyage, j'avais pris un guide de conversation allemand et un polonais. Alors, vers minuit, je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris mon guide et je me suis installé dans un des canapés situés dans le couloir à côté des escaliers. J'ai appris à dire « Bonjour, je suis Julien », ce qui donne en polonais « Dzień dobry, jestem Julien ». Je me suis dit que ça lui ferait une petite surprise pour le lendemain. Le lendemain midi, j'ai recroisé mon amie anglaise. On a discuté et on est allé manger ensemble. L'après-midi, j'ai retrouvé les deux filles polonaises pour peaufiner un petit film sur les animaux. L'une des deux s'étant absentée dans une salle voisine, j'en profitais et me lançais en polonais. « J'ai quelque chose à te dire. Bonjour, je m'appelle Julien. » Elle sourit et me demanda où j'avais appris ça. Puis elle retourna dans l'autre salle, revint avec ses amis et me demanda de répéter ce que je lui avais dit pour que tout le monde entende. Ce que je fis, provoquant chez son ami un « Oh !» Elle dut trouver cela mignon. Puis le reste du groupe s'absenta, nous laissant tous les trois. Elles commencèrent à sortir des mots et expressions françaises. L'une commença à dire « J'aime beaucoup danser », ce qui, lorsqu'elle écrivit sur son téléphone, donna en polonais « J'aime beaucoup danser ». Après avoir parlé d'animaux et surtout de poissons, l'une d'elles s'exclama « Tu es mon poison ». Je lui expliquai en espéranto « Attention, ceci peut signifier « tu me rends malade », ce qui nous fit beaucoup rire, car il faut bien différencier poisson et poison. » En français, le mot « aimer » veut dire beaucoup de choses. Je leur précisai donc de bien faire attention entre « aimer » et « apprécier ». Elles me dirent que j'étais un bon professeur, ce à quoi je répondis qu'elles étaient de bonnes élèves. Puis l'une des deux filles nous fit écouter Aïcha de Cheb Khaled sur son téléphone, en polonais. Le refrain était en français, mais orthographié à la polonaise, ce qui donnait Aïcha, Aïcha, écoute-me-la. Alors je leur écrivis avec l'orthographe française, traduite ensuite en espéranto. Ce fut le meilleur moment du séjour qu'on ait passé tous les trois. Quand je réécoute cette chanson, je ne peux m'empêcher d'y repenser. Nous sommes ensuite partis manger, puis revenus pour faire un petit film sur des animaux. Après ça, nous étions libres de nous amuser, de profiter de la soirée internationale et du concert. Ce que nous avons fait. Mais j'avais un gros pincement de cœur, car le lendemain, je devais partir. J'ai dit au revoir à mes amis ce soir-là. Le lendemain soir, j'étais de retour en France. Je peux vous dire que j'avais bien fait de prendre 3 jours de congé et de voir quelques personnes de mon entourage, car je commençais à déprimer en y repensant. Il m'a bien fallu une semaine pour que je me remette de toutes ces émotions. Ça, c'était de grands moments de bonheur. C'était ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là, et cela tombait à point nommé, car avant cela, il aurait été inconcevable pour moi de partir dans un autre pays. C'est précisément ce genre de choses qui donne un sens à la vie. Julien Bécan. Nota bene. Ce texte, contrairement aux autres témoignages des personnes en situation de handicap, a été exclusivement rédigé par l'auteur. Lourd comme le sable. Mon petit, mon tendre amour, ma différence, ma fragilité, ma force, mon espérance, mon incertitude, tu es tout cela et tellement plus. Tous ces mots que je te susurre à l'oreille, ce que je n'ose dire devant les autres, que je voudrais pourtant crier à la terre entière. Je te les ai souvent chuchotés dans ces instants privilégiés. Tant de résignation, tant de rage pour se battre contre ces murs, tant de non-dits, de prières et tant de rêves, brûlants, lourd comme le sable. Tes yeux sont tout, car le reste se fait attendre. Ton regard, jamais dans le nôtre, perdu dans ce monde que tu as créé, que je crève de ne pas connaître, que j'aimerais tant comprendre. Point de parole, point de logorée candide ou de rire contagieux, de tout ce dont les autres parents jouissent au quotidien. Ni caprice, ni mou de contrariété. Ce qui accable les autres, je m'arracherai le bras pour le vivre une fois, rien qu'une fois. Tes doigts, soudés par les dieux, déliés par ton courage, par notre travail acharné, je ne me lasse pas de les voir dompter la dextérité, petit à petit, d'une douceur parfois si contrôlée. Victoire. Tes pieds, tordus par la nature, redressés par ta persévérance et ta volonté. Le serment de marcher, parce que l'avenir liberticide n'est pas de mise. Parce que nous voulons briser les obstacles, défaire les certitudes. Tu marcheras, je le sais, je le sens. Ton squelette fragile, et cette maladie au nom si laid, cet autre que l'on ignore, ignoble, ignominie. Tes os, si saillants parfois, si précieux, maniés par tant de grâce et de fébrilité hésitante, si surveillés par toutes ces blouses, de quelle patience tu fais preuve, mon ange. Ta peau, si douce, si maltraitée parfois par ces orthèses aux promesses incertaines, si délicate sous nos caresses insatiables. Et ces massages quotidiens, baumes aux senteurs d'argan, de bien-être tellement visibles. Aucun paradis, mon enfant, ne peut me porter plus haut. Ta bouche, ronde et muette, refusant l'intrusif, et tes lèvres, roses et soyeuses, si parfaites finalement. Tes dents de lait, grinçantes ou blessantes lorsque tu souffres, que tu refuses, que tu ne veux pas. Et ce nez si discret, aux proportions si simples. Cet ensemble est si beau, harmonieux comme le flamboyant des crêtes sous le vent d'automne. Tes cils, si longs, si sombres, comme créés par la grâce elle-même. Coup de crayon de la vie entourant le noisette de tes iris qui ne nous regardent jamais. Ce regard, mon petit bout, ce regard que je connais tant, que je veux emporter avec moi comme unique souvenir. Ce regard lâché dans l'abîme de l'ailleurs si lointain, profondeur insondable, ni par moi, ni par les dieux, jamais. Tes jambes, bâtonnets frêles et chancelants, comme inutiles depuis tant de temps. Je suis si fier de toi lorsque tu les malmènes, je vois tant comme tu t'appliques. Je ressens ton effort, j'ai tant de fois rêvé qu'elle te porte sans mes mains rassurantes et indispensables. Ta voix, mon bébé, si étrangère, tellement absente. Cette voix qui ne vient pas, balbutiements essayés, marmonnements avortés, et tous ces silences qui voilent ce que tu ne peux nous dire. Je brûlerai tout pour l'entendre. Mélodie de mes rêves, souvent. Je l'ai entendu, là-bas, dans le désert. Il a fallu que j'aille si loin pour t'entendre dire ce que tu savais. Et pourtant, était-ce réellement la tienne ou bien celle de mon esprit impatient. Le jour trop attendu, souvent, efface l'éclat de l'aube. Je ne commettrai pas cette erreur. Je ne l'ai jamais commise. Je n'attends rien, je ne vise rien, sinon ton bonheur. Je ne souhaiterai pas l'impossible, ni le normal, ni le conventionnel. Tout ce que tu me donnes, ce peu, ce presque rien, il est si grand. Je le prends. Je le savoure, si tu savais comme je le savoure. Je ne suis pas aveuglé par l'ambition, je ne passe pas à côté de ces instants privilégiés. Ton effleurement de la vie me comble à chacune de tes caresses éphémères, de tes presque sourires fugaces, de tout ce que tu sais me dire à ta façon. Et l'amour, mon petit homme, l'amour que j'éprouve pour toi est si grand, si absolu que c'en est insoutenable et indicible. Si fort. Du plus discret de tes soupirs au plus infime de tes gestes, du plus étrange de tes hochements de tête à la plus insolite de tes habitudes, sache que j'en bois jusqu'à la dernière goutte d'émerveillement, et que la joie qui m'enveloppe alors ne sera jamais comprise du commun des mortels, car c'est au-delà de tout. 1800 jours d'inquiétude indomptable, 1800 jours d'amour souverain, 1800 jours de persévérance plus robuste que la foi, 1800 jours d'inconditionnel, 1800 jours d'un bonheur si grand et si puissant qu'il dévaste tout. Comment pourrais-je décrire l'indescriptible? Pourrais-je seulement expliquer la béatitude de contempler ton sommeil? Pourrais-je leur peindre l'ampleur de ce qui m'enveloppe lorsque ta main effleure ma joue, quand nous sommes couchés sur le côté, ton nez contre le mien, connivence vespérale? Comment pourrais-je leur faire comprendre, mon fils, la chaude étreinte de mon âme lorsque tu poses ta tête contre mon épaule, serment que les limites de notre complicité seront à jamais repoussées? Comment, ma fierté, mon petit bout d'innocence, comment puis-je dire au monde que notre bonheur sera plus vaste que l'océan? Anthony Signol.
La colère. Introduction. Ce n'est pas tous les jours que l'on vous propose de participer à un projet de cette envergure. Même pas tous les ans. Même pas chaque décennie. Quand Anthony Signol m'a expliqué ce qui était envisagé, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'ai l'habitude de l'écouter. On ne va pas se mentir. Je le connais bien. C'est un ami qui m'est cher. Cette idée m'est apparue merveilleuse, à plus d'un titre. Tout d'abord, œuvrer pour le handicap. Vous savez, ce truc que l'on croise parfois dans la rue, ces gens que l'on voit évoluer dans un monde qui n'est pas adapté à eux. D'une manière générale, nous nous tenons assez éloignés du handicap, parce qu'il nous renvoie à des perspectives que nous considérons comme tristes, à des problèmes supplémentaires, à des galères pas possibles, et surtout à la différence. Car le véritable moteur de ce déni, c'est le refus de la différence. Nous vivons dans un monde de plus en plus normé, qui suit des courants, des idéologies, des modes. Il faut impérativement entrer dans une boîte. Peu importe si la boîte n'est pas à nos dimensions, nous nous contorsionnerons pour qu'elle nous contienne. La pièce ronde doit absolument entrer dans le trou carré, ou le contraire. Il ne faut pas qu'une seule tête dépasse. Il faut entrer dans le moule. Se conformer avec docilité. D'une société uniformisée à une société déshumanisée, il n'y a qu'un pas, qu'il est aisé de franchir. Donc voilà l'avenir et la vie des gens différents dans notre monde. L'indifférence, la pitié, au pire l'exclusion. Il fut même un temps pas si lointain où leur sort était l'éradication, dans les bruits de bottes et les panaches de fumée des trains spéciaux. Et puis dans nos pays occidentaux, où ne plus avoir de gel pour les cheveux ou de réseau pour consulter ses mails est un véritable drame, il vaut mieux ignorer le handicap qui ferait passer nos petits tracas quotidiens pour des détails insignifiants. Pourtant, ça vaut sacrément le coup de se pencher sur le handicap. Ça vaut le coup de se tourner vers ce monde-là, parce qu'il s'y trouve toute la force qui nous manque, et parce que nous pouvons nous aussi y être un jour confrontés, se trouver de l'autre côté du miroir. Pour moi, le monde du handicap, c'est la société débarrassée de ses tares. Plus de conventions sociales dépassées. Pas de futilité. Plus de filtres. Juste de l'humain. Encore de l'humain. Toujours de l'humain. De l'humanité. C'est tout ce que vous allez trouver dans ces histoires. Ces grosses tranches de vie boursouflées d'émotions intenses et de sentiments, comme les autres. Car oui, ceux dont vous allez lire les histoires sont différents. Mais bon Dieu, quelle chance! À la fois unique et différent. Alors que nous sommes aussi des êtres uniques, mais tous pareils. Notre attitude envers le handicap en dit beaucoup sur la prévalence de l'image. Ce qui est à la surface supplante ce qui patiente derrière. Il suffit de voir combien les cabinets de conseil en image ont fleuri ces 10 dernières années pour comprendre l'importance stratégique de l'apparence. Peu importe que la coquille soit vide, il faut qu'elle soit magnifique. Peu importe s'il y a tromperie sur la marchandise, la tricherie est de toute façon institutionnalisée. Regardez les pubs à la télé, sur les panneaux d'affichage. Décortiquez les étiquettes de la grande distribution. Tout est tricherie. Le but est de tromper pour vendre. Par exemple, pour éviter d'imprimer huile de palme, ce qui fait mauvais effet, On inscrit sur l'étiquette « huile végétale ». On ne ment pas, on omet avec préméditation. Chez les handicapés, c'est le contraire. Ce qui vaut le détour se cache à l'intérieur. Ils se foutent pas mal de l'emballage. Et si j'ai appris une chose à leur contact, c'est qu'ils ne trichent pas. Ils ne trichent pas parce qu'ils ne savent pas faire, tout simplement. S'ils vous détestent, ils vous diront « je te déteste ». S'ils vous aiment, ils vous diront « je t'aime ». Ils nous rappellent que la vie est simple. Mais j'ai un tantinet digressé. Revenons au thème principal. J'ai donc tout de suite accepté la proposition de participer à ce projet. Rendez-vous compte. Racontez les histoires de plusieurs personnes handicapées au travers d'un sentiment qu'elles auront choisi. De mémoire, cela n'a jamais été fait. D'après ce que l'on m'a dit, personne n'a encore arpenté ce territoire-là. De nos jours, c'est un privilège d'enfiler le costume mythique du pionnier. Et j'adore les idées qui partent de rien et arrivent à destination. Juste après avoir accepté, une fois l'excitation retombée, une fois les choses remises à plat, j'ai un peu déchanté. Non pas que je n'avais plus envie, j'avais très envie de le faire. Mais je réalisais une chose fondamentale qui m'avait échappé. J'allais devoir sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire de ma peau de romancier. Toute la difficulté se constituait dans la manière de faire. Ces personnes qui portaient un handicap, elles allaient me faire confiance, si j'avais de la chance. Elles allaient me raconter des choses qui leur appartiennent, peut-être des épisodes intimes. Elles allaient compter sur moi pour trouver les mots et rester totalement fidèles à ce qu'elles me diraient. Ce n'était donc pas du tout mon métier. Ce n'était pas ce que je savais faire. Je suis romancier. Cela veut dire que je suis capable de me glisser dans la peau des personnages que j'invente. Selon les récits, je peux être le truand en perdition, le bon cadra qui ronronne dans une famille modèle. Je peux même devenir, même si c'est une autre paire de manches, la femme de ce même bon cadra, ou la serveuse qui bosse dans un resto et qui se tape 10 bornes de marche chaque jour au boulot et qui rentre chez elle les jambes lourdes et les pieds gonflés. Je crois que je pourrais aussi être un chien, ou un arbre. D'ailleurs, l'arbre, je l'ai déjà fait. Mais dans la mission que je venais d'accepter, il n'était question de rien de tout cela. Ce que je devais réaliser cette fois, ce n'était pas d'inventer et d'incarner. Je devais écouter des témoignages, m'imprégner et ensuite retranscrire avec une absolue fidélité les mots et les pensées de mes interlocuteurs. Je devais raconter leurs histoires sans jamais trahir leurs propos. De romancier, je devais me métamorphoser en mini-biographe. Ni plus, ni moins. Je n'avais jamais fait cela. J'éprouvais un vaste vertige. Appréhender la profondeur abyssale de l'abîme. J'évaluais la gigantesque paroi du défi à gravir. Pour moi, il était inacceptable de ne pas être fidèle à ce qu'il me dirait. Et l'ampleur de la tâche m'apparaissait soudain. Mais la chance marchait dans mes pas, à moins que ce ne soit moi qui suivais ses traces. Parmi les 5 sentiments proposés, j'héritais de celui qui me parlait le plus, la colère. Un bon début. Ensuite vint la première rencontre avec nos interlocuteurs, nos complices, nos coéquipiers en somme. Durant 2 heures environ, nous avons pu faire connaissance, nous approcher, nous renifler autour d'un verre. Je crois que le courant est passé. Puis arrivèrent les rencontres, les réunions de travail, le choc. Ce fut une énorme émotion. Ces gens me connaissaient à peine et ils se livraient sans phare, sans embâge. Plusieurs fois les larmes sont remontées en surface, un peu comme ces sources calmes qui surgissent dans un creux sans jamais déborder. J'ai écouté, j'ai noté, j'ai survécu. J'en ai pris plein la gueule. Quelles histoires ! En sortant de la première séance, j'éprouvais la sensation d'avoir tourné 4 heures dans une machine à laver et qu'en sortant du tambour, je m'étais pris un bus en pleine face. J'étais rincé, laminé. Autant de douleur et de colère en tirent nourri durant 4 heures d'entretien, ce n'est pas facile à encaisser. Il a fallu digérer tout cela, laisser poser, comme la pâte du boulanger. Au bout d'un mois, les mots ont commencé à venir, les uns après les uns entraînant les autres. Cela a fini par faire des phrases, des paragraphes, des pages. En écrivant, je discernais les visages, la douleur des regards. Je revivais tout. ces histoires poignantes, ces trajectoires tordues et pourtant si belles. Le doute, le grand doute obscur. Que vont-ils penser de mon travail? Aurais-je été fidèle? Vont-ils entendre et reconnaître leur voix entre les lignes? C'est tout ce qui m'importait. Le premier jet des textes est parti. Ils doivent être en train de les découvrir. J'imagine les visages déçus, les mines abattues, les critiques justifiées. Tous ceux avec qui j'ai parlé sont dépourvus de filtres. Je sais donc qu'ils seront sincères, pour le meilleur ou pour le pire. Les premiers retours. Soulagement. Cela semble coller. Je me détends. Nous nous revoyons de nouveau. Affinons, discutons, précisons. Il y a une grande pudeur entre nous. Franchement, dans ces moments-là, je n'ai pas l'impression de travailler avec des personnes handicapées. Je crois bien qu'à un moment donné, je l'ai oublié, tout simplement. Toutes et tous sont impliqués, motivés, attentifs. Ils font avec les armes que la nature leur a données. Ce projet est magnifique, pas parce que c'est nous qui y participons, parce qu'il existe tout simplement, parce que celles et ceux qui nous ont fait confiance, celles et ceux qui nous ont ouvert les portes de leur cœur méritent ce coup de projecteur au travers de ces 5 sentiments, comme les autres. Nous sommes liés par cette réalité, nous avons cela en commun, des sentiments identiques, pas entiers chez nous et amoindris chez eux, exactement les mêmes. J'ai achevé cette aventure en ayant acquis la certitude qu'ils n'ont pas quelque chose en moins, mais qu'ils possèdent quelque chose de plus, et une colossale résilience face à l'adversité. Je les remercie pour leur confiance, pour leur franchise, leur amour pur et pour m'avoir accepté dans cette formidable et inoubliable aventure humaine. Merci. Sébastien Vidal. 15 francs pour le silence. Cher colère, l'heure est venue que je t'écrive. Ça fait un bon moment que j'y pense. Cela fait un sacré bout de temps que nous nous connaissons. On peut dire que tu es du genre fidèle. Les années ont passé, j'ai grandi, évolué. Je crois que j'ai suffisamment de recul pour m'adresser à toi aujourd'hui. Tu es comme une amie qui me ferait du mal malgré toi, malgré moi. J'ignore si tu te souviens de ce jour maudit où nous nous sommes rencontrés. Je ne t'en voudrais pas si tu avais oublié. Après tout, tu n'es que la séquelle de ce qui est arrivé. Et puis tu as tant à faire, dans tellement de vies. Je ne sais même pas comment tu fais pour t'y retrouver, et je me demande souvent quel est ton secret pour conserver autant d'énergie. Il m'arrive de penser à toi. C'est souvent le soir, quand la lumière diminue et qu'il semble que l'espoir s'en va avec elle. L'espoir se marie si bien avec la lumière. Dans ces moments-là, je me dis que tu as dû aussi souvent visiter mes sœurs. Peut-être que tu reçois des lettres d'elles. Mais tu comprendras que moi, je ne peux pas oublier ce jour-là. Avant ce jour tout noir, tout froid, étouffé de silence, j'étais une autre Jennifer. Une petite fille heureuse malgré le handicap, avec des copines, des copains, un passé plutôt calme et plein de rêves pour le futur. Je me demande parfois si quand on a 12 ans, on peut envisager l'avenir autrement que beau. Tout est tellement possible, tout est juste là, à portée de main. Mais ce jour-là, il y a eu un imprévu. Une fracture temporelle, du genre qui salope ton corps et qui souille ton âme pour l'éternité. D'un coup, mon beau disque de la vie est rayé pour toujours. Quand tu as 12 ans, tu ne peux pas te méfier quand ton père t'emmène dans sa chambre. Surtout quand c'est un papa que tu aimes. Pourtant, il avait son côté obscur. Sa face sombre était contenue dans la bouteille. Il buvait beaucoup. Et quand il buvait, il se transformait. Il devenait méchant. Lui qui était si doux d'ordinaire. Tu as dû lui rendre visite souvent aussi, je suppose. Alors il criait. Sa voix prenait de l'ampleur. Et c'était comme si lui-même enflait dans la pièce pour devenir cette chose terrifiante. Et nous autres ramassés sur nous-mêmes dans les recoins de la maison. Alors les coups pleuvaient sur notre mère. Elle encaissait, encore et encore. J'ignore si tu as passé du temps avec elle. Il faudrait me dire. Plus le temps passait, plus il buvait. et le papa que j'avais connu toute petite a fini par totalement disparaître, phagocyté par cette chose affreuse qui n'avait de commun avec lui que son visage. Donc, quand j'avais 12 ans, mon père m'a violé. Je suis tombé de très haut. Tout foutait le camp. Ma vie était un puzzle qui se délitait sous la tempête de l'alcool et de ses pulsions. La première fois, je n'ai rien vu arriver. Ma mère était partie demander des vêtements dans une association parce qu'on était pauvres. Il a mis mes sœurs devant la télé et il m'a prise par la main. Avec douceur, et rien dans son regard ne laissait présager la suite. Il m'a tenu la main et nous sommes montés dans la chambre des parents. Il m'a déshabillé et poussé sur le lit. Il s'est dévêtu et s'est couché sur moi. Il a fait ce qu'il avait à faire et je n'ai pas vu la moindre honte sur sa figure. Normalement, on ne fait pas cela à ses enfants. J'étais prostré. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment réagir. Je crois que c'est à ce moment-là, dans les derniers soubresauts de son bas-ventre, lors de ses ultimes gémissements de plaisir, que tu es arrivé, colère. Tu es arrivé comme un flic qui défonce une porte. C'était tonitruant comme une entrée en scène. Tu t'es assise à côté de moi pendant que mon père se rhabillait. Tu as passé ta main dans mes cheveux, et lui, c'était comme s'il ne te voyait pas. Tu m'as frôlé la joue, sans doute par peur de ma réaction à cause de ce qui venait de se passer. Tu m'as dit à l'oreille, à moins que ce ne soit directement dans ma tête, « Je ne vais pas te laisser toute seule, on va s'en sortir ensemble. » Avant de me laisser quitter la chambre, il m'a donné 15 francs. 15 francs pour que je ne dise rien. Il m'a souri comme s'il me faisait un cadeau pour avoir bien travaillé à l'école. D'un seul geste, il a fait de moi une enfant violée et une pute. Du grand art. Avec cet argent, j'ai acheté des cigarettes. Pour faire comme les copines. Peut-être aussi pour que tout cela finisse en fumée. Après cette première fois, la peur qu'il recommence, que ça se reproduise, m'a enseveli tout entière. J'étais dans la nuit, seul avec ma colère qui me tenait chaud et qui me faisait comme une petite bougie dans le noir. Sans jeu de mots, je te dois une fière chandelle. Seul, je serais devenu folle. L'obscurité m'aurait avalé et il ne serait rien resté d'autre que le souffle du déplacement de mon corps qui tombe dans ce trou sans fond. Et peut-être aussi 2 ou 3 empreintes de larmes amères sur la poussière de ma solitude et de mon silence. À Roubaix, dans ce noir triste, la grisaille avait pénétré mon cœur et mon âme par une sorte de capillarité inévitable. Comme le café dissout doucement le morceau de sucre, la peine et la honte ont délité toute ma fierté. Je sais ce que tu te dis, chère colère. Tu te dis que dans le noir tu as pas mal de travail. Ça ne va pas arranger les idées véhiculées au sujet de cette région. Tant pis, je m'en fous. Il faut que je grave tout cela sur le papier. Ensuite, je brûlerai cette lettre et peut-être que tu seras dans la fumée et que tu ne seras plus en moi. Ce qui devait arriver arriva, et plutôt vite. Il a recommencé. Il a profité d'une absence de maman, comme la première fois. Mais toi, tu étais là, un peu une maman de substitution, mais en plus instable. Après, je vivais dans la hantise qu'elle sorte de la maison. J'étais prête à tout pour la retenir. Quand elle passait le seuil de la porte, mes tripes s'en mêlaient, ma tête tambourinait, mon cœur avait dératé. Je savais ce qui m'attendait, là-haut, dans son antre. J'ai vite compris que mes sœurs aînées y étaient passées aussi, chacune leur tour. C'est à ce moment que j'ai réalisé que tu connaissais bien leur histoire. J'ai pigé aussi que tu avais un grand pouvoir. Celui de te partager sans pour autant t'amoindrir. Tu étais en elle, et tu étais en moi, et aussi vivace dans chacune de nous. Je détenais un secret terrifiant, une chose qui pouvait dynamiter toute la famille, et moi je ne voulais pas perdre ma tribu. Alors j'ai été condamné au silence par le tribunal de la honte et de la peur. J'ai pris 3 ans ferme. Au mitard de 12 ans à 15 ans. C'est jeune, tu sais, pour aller en prison. Mais je sais que tu connais bien ces endroits aussi. Ils sont tous en colère en prison. Dans ma cellule, heureusement que tu étais avec moi. C'est là que, pierre après pierre, nous avons construit ce qui m'a donné le courage. Tu vois, chère colère, tu m'as fait du mal, parce que tu n'es pas facile et que tu es souffrance. Tu m'as donné de la force et du courage. Tu vois, chère colère, tu m'as fait du mal, parce que tu n'es pas facile et que tu es souffrance. Mais tu m'as donné de la force et du courage. Tu as été le mortier qui tient l'édifice. Mais qu'est-ce que c'est long, 3 ans? Surtout quand c'est ton père qui vient régulièrement au parloir, pour faire ses choses, assouvir ses plus bas instincts. Pour compenser, je me suis tourné vers la nourriture. Trop. C'est à cette époque que j'ai pris du poids. Ces kilos ne m'ont jamais quitté et lorsque je me regarde dans le miroir, je sais pourquoi ils sont là. Ils sont la mémoire des faits. Ils me rappellent sans cesse les viols. Aujourd'hui, je vis la double peine. Ma silhouette m'afflige parce qu'elle me ramène au passé et elle m'empêche d'avancer car on me traite de grosse. Certaines personnes croient que mes capacités sont corrélées à mes rondeurs. Dans leur tête, plus t'es grosse, moins t'es utile. Alors je me traîne cette croix aussi. Je ne parviens pas à maigrir et la frustration que cela génère se transforme en colère, comme toujours. Encore toi, colère. Finalement, tu es toujours au bout de la chaîne de transformation. Alors un jour, grâce à toi, colère, j'ai décidé de m'évader. C'est pas bien de s'évader, c'est interdit normalement. Mais quand c'est une question de survie, il doit bien y avoir des exceptions, non? Avant le grand saut, j'ai fait des tests. J'ai tâté le terrain. J'ai parlé à ma sœur aînée. Elle m'a dit tout de suite qu'il l'avait fait avec elle. J'ai appris que lorsqu'il avait profané son corps, elle était bien plus jeune que moi. Elle avait 6 ans. Chère colère, j'imagine quelle place tu as dû occuper dans son cœur. Et quelle place tu occupes encore. C'est un miracle qu'il n'ait pas explosé et c'est un miracle qu'elle ne soit pas devenue cinglée. Mais tu n'as pas eu le même effet sur elle. C'est bizarre. Ma sœur ne voulait pas que je parle. Elle disait qu'il fallait garder le secret. Alors je me suis fait la malle, comme on dit. Et tu étais avec moi, bien sûr. J'avais décidé de parler à maman, de lui dire. Rien que de l'avoir décidé, c'était sortir de cette prison mentale. Peut-être que j'avais la trouille, certainement. Je crois que ce jour-là, alors que j'hésitais, tu m'as donné une pichenette dans le dos pour que j'ose, que j'aille au charbon. Et dans le Nord, le charbon, on connaît bien. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma bouche tellement il gigotait dans ma poitrine. Je le voyais presque, plein de sang, turgescent et bleuté, se contractant et se décontractant tout en essayant de passer entre mes mâchoires dans un gargouillis infâme. Du coup, j'ai choisi l'option humour. J'ai avoué mon viol par mon propre père sur le ton de la rigolade. Tu le crois, ça, colère ? Sur le moment, je n'ai rien trouvé d'autre. J'avais tellement peur de balancer cette grenade en plein milieu du salon. Ma maman ne m'a pas cru. Pas cru du tout. Longtemps, j'ai pensé que c'était à cause de la manière que j'avais choisie. Mais je sais aujourd'hui que c'était parce qu'elle ne voulait pas l'accepter. C'était trop énorme, trop fou. Si elle l'acceptait, ça signifiait qu'elle n'avait rien vu, jamais. Sur moi, sur mes sœurs, qu'elle était passée à côté. Elle se disait qu'une mère sent ces choses-là. Alors, dans un premier temps, elle a choisi le déni. Ensuite, peut-être parce que mon aveu lui avait ouvert les yeux sur des petites choses du quotidien qu'elle trouvait bizarres, elle est revenue vers moi. Je me suis effondré. Là, je n'ai pas utilisé la rigolade comme procédé. J'en étais incapable. Je crois que ce jour-là, alors que j'hésitais, tu m'as donné une pichenette dans le dos pour que j'ose, que j'aille au charbon. Et dans le Nord, le charbon, on connaît bien. Je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir par ma bouche tellement il gigotait dans ma poitrine. Je le voyais presque, plein de sang, turgescent et bleuté, se contractant et se décontractant tout en essayant de passer entre mes mâchoires dans un gargouillis infâme. Du coup, j'ai choisi l'option humour. J'ai avoué mon viol par mon propre père sur le ton de la rigolade. Tu le crois, ça, colère ? Sur le moment, je n'ai rien trouvé d'autre. J'avais tellement peur de balancer cette grenade en plein milieu du salon. Ma maman ne m'a pas cru. Pas cru du tout. Longtemps, j'ai pensé que c'était à cause de la manière que j'avais choisie. Mais je sais aujourd'hui que c'était parce qu'elle ne voulait pas l'accepter. C'était trop énorme, trop fou. Si elle l'acceptait, ça signifiait qu'elle n'avait rien vu. Jamais. Sur moi, sur mes sœurs. Qu'elle était passée à côté. Elle se disait qu'une mère sent ces choses-là. Alors, dans un premier temps, elle a choisi le déni. Ensuite, peut-être parce que mon aveu lui avait ouvert les yeux sur des petites choses du quotidien qu'elle trouvait bizarres, elle est revenue vers moi. Je me suis effondré. Là, je n'ai pas utilisé la rigolade comme procédé. j'en étais incapable. Alors ma mère a bougé. Elle m'a fait faire des tests et ces tests ont révélé que je disais la vérité. Je ne saurais dire, même aujourd'hui, ce que ressentit ma mère. Je crois qu'elle était outrée de la vérité, mais qu'elle m'en a voulu parce que son monde volait en éclats. La machine judiciaire s'est emballée. Cet aveu m'a mise à l'écart. Dans le cercle familial, j'étais totalement isolé. Plus personne ne me parlait. Il n'y avait que toi, colère. Tu ne m'as pas laissé tomber, même si c'était surtout moi qui parlais et toi qui écoutais. Mes parents avaient trop de problèmes dans le Nord, alors nous avons atterri en Corrèze. Et tu nous as suivis, colère. Je ne sais pas si tu te plais mieux ici ou si tu regrettes le Nord. C'est en Corrèze que tout a changé. Je ne sais pas si c'est le changement d'air. Mon père a été jugé et lui aussi s'est retrouvé en prison. Mais pour lui, c'était une vraie, avec des barreaux bien réels et des murs ailleurs que dans la tête. Ça a disloqué la famille. Et je sais que tu as été à l'œuvre là-dedans, parce qu'ils étaient tous en colère contre moi d'avoir parlé. Alors je t'en ai voulu d'avoir été aussi avec eux. C'est étrange d'être en colère contre sa colère, contre toi. Je ne sais pas si c'est possible de t'utiliser contre toi-même. Quand j'y pense, je suis un peu perdu. Tu m'as fait mal, mais c'était pour m'aider. Mais ensuite, tu as prêté main forte aux autres pour m'exclure. Et enfin, je me suis servi de toi contre toi, et tu m'as laissé faire. Tu es quelqu'un de très complexe, colère. Aujourd'hui, tu es encore dans mes pas, mais il me semble que tu te tiens à distance. J'ai même la sensation qu'à chaque mot que je couche sur ce papier, tu t'éloignes un peu plus. As-tu un autre travail à faire avec une autre personne? Peu importe. Tu m'as tenu chaud de longues années. Mais ce manteau est maintenant bien trop lourd à porter. Je dois le laisser glisser. Ne prends pas cela pour de l'ingratitude. Je sens que cela doit se passer comme ça. C'est tout. Mais ne crois pas que c'est la fin, colère. Si j'avais mon père en face de moi, je lui casserais la gueule. Oui, c'est ce que je ferais. Et ensuite, je lui demanderai pourquoi il m'a fait ça. Tu vois, je n'en ai pas encore fini avec toi. J'ai un peu de mal à avancer dans la vie. J'ai un amoureux, tu le sais. On s'entend bien, mais il vit encore chez ses parents. Il a du mal à couper le cordon, comme on dit. Et ça, ça m'énerve. Tu n'es donc pas loin. Je voudrais avoir des enfants. Mais mon histoire ancienne parasite mes projets. Et la maman de mon amoureux n'est pas prête à être grand-mère, elle me l'a dit. La vie est compliquée, je la rêve simple. Heureusement que je suis amoureuse. Ça lave tout le reste. J'adore ses bisous, ses câlins, son infinie tendresse. D'un point de vue du désir, c'est compliqué. Même si j'ai envie de lui, quand il se couche sur moi, il est accompagné d'une ombre. Je souhaite lui offrir tellement plus. Ne m'en veux pas, mais je pense que si tu t'en vas, cette ombre reculera. Il est grand temps que je vive et que je voyage le plus léger possible. Maintenant, j'ai un autre moteur que toi, chère colère. C'est la fierté. Je suis fier d'avoir parlé. J'ai brisé le silence. Mais je crois que je ne vais pas lui rendre ses paquets de 15 francs. Je crois que c'est la moindre des choses, tu ne crois pas? Je t'embrasse, colère. Merci pour ton aide. Peut-être un de ces jours. Jennifer. Le parfum des beignets. Je m'appelle Chloé. J'aime bien la colère. C'est un sentiment qui me motive. Je suis tout le temps en colère. Enfin, j'ai l'impression que je suis tout le temps en colère, mais c'est pas vrai. C'est parce que la colère, quand elle est passée, elle laisse une longue traînée en moi, comme ces panaches blancs qui persistent dans le sillage des avions, là-haut, très haut dans le ciel. Quand elle arrive, c'est très soudain, et c'est très fort. Je n'ai jamais envie de taper quelqu'un. Jamais de violence physique. Mais à chaque fois, il me faut une clope. Souvent, c'est mon copain, Théo, qui me met en colère. Faut voir comment il me parle des fois. Il me traite de débile. Il me parle mal. Il dit que je suis folle. Mais je me laisse pas faire, parce que je n'ai vu d'autres, et des trucs pas chouettes. Je vous dirai, après. Théo a 25 ans, il est plus jeune que moi. Je crois que ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble. Je me souviens très bien de ce jour. C'était un 1er février. C'est marrant, j'ai un doute sur la durée de notre histoire, mais je me souviens parfaitement du jour. Peut-être parce que son anniversaire, c'est le 18 février. Presque 10 années qu'il me fout en rogne. C'est bizarre, cette relation. On se chamaille tout le temps, et pourtant on est toujours fourrés l'un avec l'autre. Quand je suis avec lui, la plupart du temps je suis contente. Tout va bien. J'oublie tout. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'asticoter. Notre histoire, c'est une grande plaine jalonnée de petites montagnes pointues. Ces montagnes, c'est quand on s'engueule. Nous deux, c'est attirance et répulsion. Les deux phénomènes avec la même force. Lorsque je réfléchis à mon histoire avec Théo, je me dis que tout ce que j'ai vécu était à chaque fois un pas de fait vers ma relation avec lui. Quand je suis avec lui, je me sens bien. Mais si j'essaie de savoir pourquoi je me sens bien en sa compagnie, c'est le trou noir. J'en sais rien. C'est peut-être comme ça qu'on sait qu'on est amoureux, quand on ne sait pas pourquoi on est bien avec quelqu'un. Quand il n'est pas là, je joue à des jeux sur ma tablette. J'adore les jeux de société. Des fois, elle déconne, la tablette. Ça m'énerve et la colère est tout de suite là. Alors je lui tape dessus. Je tape jamais les gens, mais la tablette, oui. Et elle aime pas ça. Après, elle déconne encore plus. Théo, il m'a frappé une fois. Juste une fois. Tout de suite, il s'est excusé. C'est facile de s'excuser. Tout le monde peut le faire. Mais j'ai été derrière ses yeux. Là où il est vraiment. Là où il n'y a que moi qui puisse aller. Et j'ai vu qu'il était déçu d'avoir craqué, d'avoir laissé la colère guider sa main. Depuis, quand on s'engueule et qu'il nous met en colère, il lève la main comme pour me faire croire qu'il va me cogner. Alors je me tiens bien droite devant lui pour lui montrer que j'ai pas peur et je lui dis « Vas-y, essaie, je vais te dresser, moi. » Du coup, il va pas plus loin. Mais je sais que si je disais rien, il pourrait le faire pour de vrai. Et c'est la colère qui m'aide à lui faire face. À ce moment-là, elle est mon alliée. Mais au fond, il est gentil. Il a juste besoin d'être vissé. Il n'en rate pas une. Après une engueulade, on se pardonne. Lui surtout. Il me fait des câlins. Tout passe avec les câlins. Moi, j'ai plus de mal. C'est dur de pardonner. Il faut que le panache des avions s'estompe. D'une certaine manière, ça me fait souffrir d'être comme ça. Mais je ne peux pas être sur tous les fronts à la fois. Quand la colère survient, c'est tout un tas de sensations. J'ai l'impression qu'un geyser surgit du sol et pénètre mon corps par mes pieds. Ça fait un bruit de vapeur brûlante et ça gonfle à l'intérieur en une seule seconde. Je ne me vois pas, mais je suis persuadé que mes joues sont écarlates. Parfois, j'ai envie de me faire pousser une énorme masse en fer au bout des bras, pour frapper le sol avec toute cette colère. Et ça l'ouvrirait en deux, et cette colère, je pourrais l'y enfouir pour toujours. Peut-être que la colère fait partie de nous, ou alors de la vie. J'y pense quelquefois et je n'ai pas la réponse. Alors je laisse tout en suspension pour que ça décante. Mais tout cela, ce n'est que la brume au-dessus d'un lac. La matière, c'est l'eau. Si j'essaie de suivre la trace de cette colère, elle m'emmène sur le chemin broussailleux de l'enfance. Je crois que cette grosse bête sombre, elle est cachée là-bas, dans la maison qu'on habitait. Ça me fait penser à mon papa. Il me manque. Il avait attrapé un cancer du pancréas. Il a résisté. Il a été courageux. C'était quand on habitait à Saint-Angèle. J'étais encore presque une ado, mais je m'occupais de mon papa. Je le faisais parce que ma mère s'en foutait. Elle partait se promener et moi je restais avec lui. C'est pas une vie, je vous le dis. Un jour ma mère a fait des reproches à mon papa. C'était injuste. J'ai senti la colère arriver, avec ce crépitement familier, un immense troupeau à l'horizon, avec ses vibrations en moi. Alors je suis sorti et j'ai claqué la porte de toutes mes forces. J'ai espéré un peu que la colère se soit retrouvée tout entière dans cette porte, prisonnière à jamais dans le bois. Peut-être que si je ne touchais plus jamais la poignée, elle y resterait pour toujours. Mais ça n'a pas marché. Alors j'ai recommencé. Je me disais que je n'avais pas utilisé toute ma force, que je n'avais pas ouvert assez grand les vannes grises. Une autre fois, j'ai brisé un meuble, la vaisselle, un carreau, comme un trou vers l'horizon pour qu'elle s'y faufile. Mais cette putain de colère, il n'y restait jamais. Cette mercenaire de la rage n'était bien que dans mon ombre. Tout le monde dit que c'est ma mère qui l'a fait mourir, mon papa. Moi, je sais que c'est elle. Je le sais comme je sais que le jour succède à la nuit. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Ces choses me font pleurer, alors j'évite de trop les approcher, pour ne pas les réveiller. Quand elles sont éveillées, elles gigotent, elles hurlent, elles grattent derrière les murs. Mes larmes, je crois que c'est une autre manifestation de ma colère. Alors je les essuie parce que si jamais elles touchaient autre chose que ma peau, elles y feraient un trou. Même dans le sol, même sur l'acier. Ma mère l'a tuée, je le sais. Elle lui donnait trop de cachets, ceux qu'il avait pour sa maladie. Même le docteur me l'a dit. Je la voyais faire. Elle était si distante. Il était devenu trop embarrassant pour elle, trop gênant. Moi, je voulais qu'il reste encore un peu. C'était mon papa. Elle ne m'en a jamais parlé, mais elle sait que je sais. Elle vient pas me voir. Peut-être qu'elle a honte de m'avoir pris mon papa. Ce secret entre nous, c'est le grand couvercle au-dessus de nos vies. Ou peut-être qu'elle s'en fout de moi, de mon frère et de mes sœurs. Elle vit pour elle. Finalement, je voudrais qu'elle vienne une seule fois, pour reconnaître son geste, pour s'excuser, qu'elle le dise, que ses mots me pénètrent et me soignent. Elle est la seule qui peut tuer ma colère. Elle a tué mon papa et elle ne veut pas tuer ma colère. Elle refuse de me libérer. Alors cette chose en moi, elle fait son nid, elle y profite, elle se nourrit d'elle-même. Nous sommes colocataires pour le pire et seulement pour le pire. Le meilleur, ma mère me le confisque. J'aurais préféré que ce soit elle qui parte plutôt que lui. Si une force occulte m'avait donné cette responsabilité de choisir, alors oui, je n'aurais pas hésité. Mon frère et mes sœurs pensent comme moi. Ils savent, eux aussi, d'une manière instinctive. Ils ont percé la vérité. Et la souffrance a coulé de cette ouverture. Depuis, ça suppure. Cette intuition que l'on partage, nous sommes pourtant incapables d'en parler. Nous sommes sous son joug, main dans la main et un genou à terre, le visage vers le sol, en détresse mais en silence. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi ce tabou. Qui fera le premier pas? Cette chose nous a éloignés, peut-être pour de bon. J'ai la nostalgie du temps où nous étions une famille, avec ses imperfections, mais une famille. Quand mon papa était encore là, et mon petit frère, et mes sœurs. On s'organisait. Un qui faisait le ménage, une autre les courses. Je payais les factures avec le chéquier, et ma mère presque jamais là, jamais les mains dans le cambouis. Je me souviens de ces après-midi. Je faisais des beignets, un rayon de soleil dans la cuisine. Le bruit des gamelles, la voix de mes sœurs, les yeux de mon papa, les rires, le goût de la pâte et l'odeur des beignets, les bruits de nos vies enfuis à jamais. J'aimais mon papa. Pourtant, il était dur avec moi, et injuste aussi. Petite, il me punissait avec le martinet, parfois avec un bâton. Il ne le faisait jamais avec mes sœurs et pas non plus avec mon petit frère. Pourtant, quand il est tombé malade, c'est moi qui m'en suis occupé. Ça s'est fait comme ça, sans parole, aucun contrat. Pas de consigne ni de requête, comme une sorte d'évidence. Il était dur avec moi, mais c'est moi qui l'ai accepté pour le soigner. Peut-être qu'il sentait que je l'aimais plus que les autres. Je ne sais pas si c'est possible de sentir ce genre de choses. Je pense à lui souvent. Pourtant, on ne faisait pas grand-chose ensemble. On se contentait d'être l'un à côté de l'autre. On marchait, on faisait le tour du bâtiment. On était bien. Peut-être que c'est ça le véritable amour, l'inconditionnel, celui qui n'a besoin de rien d'autre que la présence, pas d'artifice, juste le bruit d'une respiration, quelque chose qui passe dans les yeux, une expression sur le visage, nos doigts qui s'effleurent, le temps et le silence qu'on se donne. Quand je pense à lui, je le revois malade et diminué, dans son fauteuil roulant. Sans doute à cause des moments qu'on a passés ensemble à la fin de sa vie. Je suis allé le voir quand il est mort. Il était sous un drap blanc. Ça m'a marqué. Je pense à lui souvent, mais je ne lui parle jamais. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui parlent à ceux qu'ils aiment et qui sont morts. Moi, je ne peux pas. J'aurais trop peur de lui parler. Peur qu'il me réponde, alors qu'on ne se parlait presque pas quand il était vivant. Ça serait un sacré événement, non? Mais si jamais un jour je trouve le courage de m'adresser à lui, je lui dirai que je l'aime. Juste ça. Ça m'a fait du bien de vous raconter mon histoire. Je me dis qu'à chaque fois qu'une personne lira ce récit, elle prélèvera une épaisseur de colère sur mon âme. Alors lisez. Lisez jusqu'à ce que les pages s'effritent et que les mots s'effacent. Peut-être qu'alors, cela suffira. Chloé. Pour une poignée de kilomètres. Parfois, quand j'entends la chanson de Bruce Springsteen, Born in the USA, je me dis que les deux premières phrases sont écrites pour moi. Je suis né dans une ville paumée et j'ai morflé dès que j'ai touché le sol. Je m'appelle Polat, je suis d'origine turque. Ma vie ainsi que celle de ma famille a basculé un jour lointain, quand j'avais 1 an. Sa trajectoire s'est fracassée sur une route sinueuse de Haute-Corrèze. De temps en temps, quand j'y repense, je me dis que cette vie que je n'ai pas vécue erre sur le plateau de mille vaches, d'endroits secrets en lieux mystérieux, me cherchant pour réintégrer mon corps. Toute la colère qui bouillonne en moi, elle vient de là, de ce moment où nos existences ont pris une direction imprévue et terrible. À partir de cet instant, tout est allé de travers et j'en ai pris plein la gueule. Tout ce que je sais de cet accident, je le tiens de mes parents. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé. J'avais 1 an et je dormais à l'arrière de la voiture. Nous rentrions de Turquie et le voyage avait été harassant. Au volant, mon père n'en pouvait plus, mais il s'accrochait. Il nous restait 1/4 d'heure de route. Ma mère lui a dit qu'il devait s'arrêter, qu'il était trop fatigué, qu'arriver dans 1 heure ou 15 minutes, ça n'avait pas d'importance. Mon père lui a répondu qu'il n'était pas un enfant en nous désignant mon frère Membati et moi à l'arrière. Quelques minutes plus tard, il s'endormit et nous nous retrouvâmes prisonniers de l'atoll froissé et du fossé impitoyable. Toutes nos vies, tous nos espoirs s'évaporèrent dans les volutes de fumée qui montaient du capot recroquevillé dans la terre. Ma mère s'est retrouvée paralysée. Elle est directement passée du siège de la voiture au fauteuil roulant qu'elle n'a plus quitté. Mon père s'en est sorti indemne et moi j'ai écopé d'une hémiplégie du côté droit. Je n'aurais possédé mon corps tout entier qu'une seule petite année, et le pire, c'est que je n'en ai aucun souvenir. Une fois l'état de ma mère confirmé, mon père l'a immédiatement quitté. Comme ça, du jour au lendemain, comme une vieille chaussette trouée. Il nous a laissés comme on abandonne un chien au bord de la route, attaché à un arbre, recouvert de toute l'affliction du monde. Mon grand-père paternel s'est mis en quête d'une autre femme pour son fils. Il disait qu'il ne pouvait plus rester avec ma mère. J'ai découvert cela petit à petit, en posant des questions, en écoutant les discussions entre les membres de ma famille. Le côté de mon père ne disait pas la même chose, et ça sonnait faux. Peu à peu, je découvrais avec mes oreilles d'enfant l'ampleur du désastre. J'en ai retiré un grand sentiment d'insécurité. Ainsi, du jour au lendemain, par un coup du sort, on pouvait n'être plus rien aux yeux de ses proches. J'ai appris en écoutant autour de moi que ma tante, la sœur de mon père, avait semé les graines de notre malheur. Après l'accident, quand nous avons su que ma mère resterait handicapée, elle a fait semblant d'aller à la mairie pour se renseigner car elle parlait mieux le français que nous. À son retour, elle a raconté que si mes parents restaient ensemble, l'État français nous placerait, mon frère et moi, dans une autre famille, parce que ma mère était handicapée. Tout cela pour que ma mère accepte le départ de mon père. À cause de l'accident, on a proposé une indemnisation à mon handicap. Ma mère a demandé au tribunal qu'on place ce pécule sur un compte à mon nom, une somme que je pourrais utiliser à ma majorité. Mais mon père n'était pas d'accord, il voulait garder le fric pour lui. Sur le retour, une violente dispute a éclaté entre eux. Ma mère a tenu bon et mon père a crevé les pneus de son fauteuil, puis est parti. J'étais petit, c'est mon frère qui a 3 ans de plus que moi qui me l'a raconté. Cette scène, il l'a vécue, celle l'a marquée comme une empreinte au fer rouge. Sa peau fume encore. Nous nous sommes retrouvés seuls, ma mère, mon frère Memati et moi. Enfin, désormais la moitié de moi. Nous étions très mal. Sans ressources, sans soutien, déboussolés. Ma grand-mère maternelle est alors venue de Turquie pour nous aider. On lui doit une fière chandelle. Tout avait changé, mais pour moi, tout était pareil. Ma maman était dans un fauteuil, mais c'était toujours ma maman, et elle pouvait bouger ses bras pour me serrer très fort. Rien que ça, ça n'avait pas de prix. Je crois que dans ses yeux de mère, elle voyait aussi un polat tout entier et pas juste une moitié d'enfant. Nous étions assortis en quelque sorte. Elle, une moitié horizontale, et moi, une moitié verticale. L'amour est toujours entier, d'où qu'il vienne. La colère aussi. Elle est tout entière, mais si l'amour est un baume, la colère est une brûlure infâme qui persiste très longtemps. Nous avons vécu plusieurs années de la sorte, vivant petitement, veillant les uns sur les autres, avec un interminable cortège de questions corrosives et un père devenu juste un visage sur une photo. J'étais encore un enfant et je ne réalisais pas l'importance de ce qui s'était joué ce jour-là, sur cette route. Quand les paupières de mon père s'étaient baissées, c'était en même temps des rideaux noirs qui s'étaient abattus sur nous. Mais si je peux excuser l'accident, après tout il voulait faire de son mieux, je ne peux pas passer l'éponge sur sa fuite, cet abandon de famille. Nous, les gars, on ne pense pas comme les filles. Si c'était mon père qui était handicapé, ma mère ne l'aurait jamais laissé. En plus, dans mon pays d'origine, ils pensent comme ça. L'homme peut abandonner son épouse, mais pas le contraire. Ça me choque. Mon hémiplégie me posait de gros problèmes. Quand on est petit et qu'on ne peut pas faire comme les copains, c'est dur. En plus, j'étais droitier. Mais la vie n'en avait pas fini avec nous. Quand on ne se met pas tout seul dans la merde, la vie s'en charge. Un jour, je devais avoir dans les 12 ans. Notre appartement a cramé, entièrement. Nous nous sommes retrouvés en foyer. Là, ça commençait à faire beaucoup. J'avais une moitié de moi, mais des emmerdes pour quelqu'un de tout entier. J'ai serré les dents, j'ai baissé la tête, mais je n'ai jamais lâché l'affaire. J'ai ruminé. À l'époque, j'éprouvais un sentiment très fort, une émanation de moi qui me parcourait, comme des secousses et des vagues. Ça m'ébranlait au plus profond. Ça me faisait voir le monde en rouge, mais je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que c'était de la colère. Elle est toujours là. J'ai voyagé tout ce temps avec elle. Et une colère comme celle-là, qui est née dans ces conditions-là, je peux vous certifier que ça prend une sacrée place. Quand on se ramasse un fardeau pareil de si bonne heure dans la vie, impossible de voyager léger. Toutes ces années face à l'adversité, face à la vie qui nous en mettait plein la gueule pour pas un rond. Je me suis cherché, et j'y espérais des réponses aussi. Mais trouver des réponses présuppose posséder un peu de lucidité, et la colère dissout tout ce qui est à son contact. Cependant, j'ai fouillé mon âme. J'ai voulu savoir pourquoi j'avais ce volcan en tapis en moi. Les replis de mon être vibraient de tant de colère, ou une de ses variantes, car la colère est un sentiment qui maîtrise tous les déguisements. Haine, rage, rancœur, amertume, jalousie, il n'y a que l'embarras du choix. Quand j'oubliais mon handicap, il y avait toujours une personne pour me le rappeler. Ma différence me collait aux fesses. Quand je vivais encore avec ma mère, je faisais du foot. C'était pas facile avec un côté droit qui déconne à plein tube. Mais l'entraîneur, il m'aimait bien et me soutenait quand les autres voulaient me mettre de côté. Le plus dur, c'était à l'entraînement, quand on faisait les équipes pour un petit match. Les deux capitaines choisissaient leurs joueurs, et je savais qu'aucun des deux ne me voulait. Je savais que personne ne me souhaitait dans son équipe. J'étais le boulet, le mec à éviter si on voulait gagner. Mais je devais endurer cette épreuve jusqu'au bout à chaque fois. À chaque nom qui était prononcé, je recevais un coup au cœur. Finalement, l'entraîneur me mettait d'office dans une équipe et je sentais les regards de reproche des autres. Tricard des deux côtés. C'est presque marrant quand on n'en a qu'un, de côté. Dès que je voulais faire quelque chose, on me disait « Toi, tu ne peux pas, t'es handicapé ». Ça me rendait fou. Je réalisais que toute une partie du monde m'était interdite. Ces gens qui me repoussaient, ils invoquaient mon handicap pour m'exclure. Mais c'était plus retors que ça. Il me disait que je ne pouvais pas participer à ceci ou cela pour ma sécurité. La bienveillance polluée par l'ostracisme. Il ne voulait simplement pas se compliquer un peu la vie en me supportant. En plus, il pensait que j'avais un problème mental, et ça me foutait en rogne. Pour la plupart des gens, il y a confusion. J'étais juste hémiplégique. La pitié pour me tenir à distance. Quelle horreur! La plupart du temps, j'oubliais que j'étais handicapé et ces gens me le rappelaient sans arrêt. Comment évacuer cette immense frustration agglomérée à ma vieille colère? Quand elle arrivait, je la sentais monter comme la marée, mais bien plus vite, bien plus fort. Et une fois au maximum, quand la soupape de mon âme vacillait, je me retrouvais bloqué. La colère n'est jamais très éloignée de la violence. Il peut même lui arriver régulièrement de l'enfanter. Mais libérer cette chose en m'en prenant physiquement aux autres n'était pas une option. Tout au plus, des insultes. J'avais raison d'être révolté et je ne voulais pas me retrouver dans le camp de ceux qui avaient tort. Je préférais me replier, me retrouver seul. Alors j'ai beaucoup pleuré. J'ai laissé passer ma colère à travers mes yeux. Je me suis épuré de cette façon. Désintoxiqué par la peine, lavé par les larmes. Heureusement, ma mère était ma confidente. Forcément, par son statut de personne handicapée et le fait qu'elle était ma mère, elle réussissait un peu à apaiser ma souffrance, à comprendre. Ma mère au centre de tout, médicament pour toute maladie. À cette période, j'ai été jaloux de mon grand frère. Il avait un scooter et faisait ce qu'il voulait au foyer. Moi, avec mon côté droit inerte, j'étais scotché là-bas comme un insecte agrafé dans une boîte. Psychologiquement, j'étais au plus bas. J'arrivais à un âge où les nuages se dissipent, où on voit son avenir avec terreur et où le présent ne donne aucune satisfaction. J'étais furieux et perdu. Mon père est alors revenu à la charge. Il m'a demandé de venir vivre avec lui. J'avais le foyer tellement en horreur que j'ai accepté. C'était une colossale connerie. Il vivait avec sa nouvelle femme. Elle avait 4 enfants. J'ai tout de suite vu qu'aux yeux de ma belle-mère, je n'étais pas le bienvenu. Dès qu'il y avait une bêtise de faite, elle m'accusait. Elle protégeait ses propres enfants et me mettait tout sur le dos. Moi, j'encaissais sans rien dire. Je me sentais seul, terriblement seul. Enfin, pas si seul que cela. J'étais suivi comme mon ombre par la colère, un monstre à plusieurs visages, qui changeait tout le temps. Je culpabilisais d'avoir laissé ma mère. Moi aussi, je l'avais abandonnée. Elle qui avait tant fait pour moi. Je faisais comme mon père. J'ai eu très peur de lui ressembler. La culpabilité, c'est aussi de la colère. Une autre forme, une autre essence, tout aussi inflammable. Et puis un jour, j'ai compris. D'un coup, tout était clair. Mon père m'avait demandé de venir vivre avec eux pour mettre la main sur mon pécule. Quelle gigantesque déception! Je me suis retrouvé dans un puits humide et putride, noir comme la nuit, étouffant. Alors mon père ne m'aimait pas. Il n'était intéressé que par le fric. Je n'étais rien et je devenais moins que rien. Savez-vous combien ça vaut, moins que rien? Pas grand-chose. Mais moins que rien dans les yeux de son propre père. Il n'y a pas de mots. Harcelé, malmené, accusé de tous les maux, je me sentais oppressé par cette famille de rapaces. Alors je suis reparti. Ma tante m'a accueilli un certain temps, le temps de me reconstruire un peu, au moins les fondations. Mais je regardais sans cesse en arrière. Dans ce rétroviseur, je voyais mon père, où la colère me bouffait, et je ne savais pas comment gérer cette bombe. Ensuite, je suis revenu auprès de ma mère. Aujourd'hui, mon cœur a pris des rides. J'ai 24 ans et la colère est toujours là, comme un chien enroulé sur sa paillasse dans la maison. Il me regarde en dressant les oreilles. Elle me regarde avec un sourire carnassier. Je ne sais pas comment me débarrasser d'elle, comment la semer. Peut-être que la seule chose qui peut l'anéantir est la justice. La justice et le pardon. La justice m'est refusée et le pardon, j'en suis encore incapable. Au centre, j'apprends un métier. Je me suis coupé la main gauche avec une scie radiale. J'ai été opéré, j'ai fait une longue rééducation. Ma main est presque redevenue ce qu'elle était avant l'accident. Je me suis battu avec autant de courage qu'une personne qui n'est pas handicapée. J'aurais bien voulu que ceux du foot voient ça, pour qu'ils comprennent. Il y a quelque temps, je me suis marié avec une fille en Turquie. Après mon accident à la main, j'ai passé 4 mois là-bas. Nous nous sommes fiancés. Elle vivait au pays. 4 mois de fiançailles. Je ne vais pas vous mentir. ce sont nos familles qui ont organisé ce mariage. Sans doute qu'elles ne m'aimaient pas. Mais pourquoi toute cette mascarade? Finalement, elle n'est jamais venue en France. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de moi. Nous n'avons même pas vécu ensemble. Cette femme voulait-elle m'épouser pour mon argent? M'a-t-elle quitté à cause de mon handicap? Où se trouve la vérité? Une seule certitude, elle ne m'a pas aimé aussi fort que je l'ai aimé. C'est injuste, elle me refuse ma chance. Comment je peux gérer cela? Le seul moyen pour moi de passer l'éponge, c'est qu'elle me dise la vérité. La colère prolifère dans le silence. Aujourd'hui, je fais mon chemin. Tout n'est pas réglé. J'attends des réponses. Je gagne des combats. Je ne suis pas résigné. Si j'avais comme par magie le pouvoir de changer une seule chose, même dans le passé, je voudrais que ma mère marche. Parce que je ne l'ai jamais vue marcher. Voir ma mère debout devant moi, quelle joie ce serait. Ce serait comme découvrir un nouveau continent, un continent tout entier rempli d'amour. Mon frère, lui, il a eu ce bonheur de la voir marcher. Il est plus vieux que moi, il possède des souvenirs d'elle debout. Et si jamais, dans son infinie bonté, la vie m'accordait une autre possibilité de changer une deuxième chose, une sorte de pouvoir, une quête, une requête, ce serait de savoir pourquoi ma femme m'a quitté avant que tout commence entre nous. Même pas qu'elle revienne, juste connaître la vraie raison. Aujourd'hui, je traîne ma colère, sous toutes ses formes, à tour de rôle. Je regarde le monde tel qu'il est et j'essaie d'être sincère. Je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je crois que je préfère ne pas savoir. Si j'avais su ce qu'elle me préparait quand j'étais dans le ventre de ma mère, je ne sais pas si je serais sorti. Peut-être que oui, pour elle. Ce chemin a été tellement tortueux, dur, interminable. Mais j'ai toujours l'espoir qui m'accompagne. Je n'ai pas abdiqué. J'ignore de quel côté il se trouve, mon côté droit faiblard ou mon côté gauche laborieux. Mais il est là, dans mon sillage. Et lui, au moins, il ne me juge pas. Il est là, simplement. Paulette. Posé sur une épaule. Un certain nombre de personnes sur cette terre pensent qu'elles ont un ange gardien. D'autres nous nomment par le terme « bonne étoile » ou encore « bonne fée ». Peu importe. Nous existons, nous sommes bien là, nous vous suivons, mais nous n'avons pas le moindre pouvoir sur les événements. Notre rôle est d'observer et de se souvenir pour pouvoir raconter l'histoire de celui ou celle que nous avons suivi toute son existence. Nous sommes présents pour faire en sorte qu'aucune vie sur cette terre ne soit oubliée. Je suis là pour vous raconter l'histoire de Lise. Elle a 37 ans. Elle a grandi dans un petit village du sud de la Corrèze, traversé par la Dordogne. C'est au bord de ce cours d'eau qu'a coulé la rivière de son enfance. Quand elle est née, je l'ai trouvée belle. Quand on est une ange gardienne, on a le droit d'éprouver des sentiments. C'est parfois douloureux, mais tout prend bien plus de valeur que si on se contente de rester en retrait. Ses parents, Baptiste et Amandine, ne sont pas restés ensemble plus de 3 ans après son arrivée sur Terre. Baptiste était violent et il frappait son épouse. Elle a divorcé et plus rien n'a été pareil. Après une période de flottement, la petite Lise s'est retrouvée placée à l'âge de 6 ans chez une grand-mère d'adoption. On les appelait les gardiennes. La petite a donc passé la plus grande partie de son enfance élevée par sa gardienne, Annabelle, et son mari Léo. Ces deux-là étaient gentils avec elle et peu à peu le petit animal blessé par la séparation de ses parents a repris de l'assurance. Mais c'était un long chemin semé d'embûches. Elle avait perdu ses amis de la maternelle et se retrouvait dans une autre école au primaire. Tout changeait d'une manière radicale. Quand on est ange gardienne, on souffre aussi beaucoup. On est le témoin de tant de moments difficiles. Moi, ce qui me déchire, ce sont les au revoir ou les adieux. Chaque au revoir est un adieu en puissance devant l'inconsistance de l'avenir. Quand je l'ai vu quitter ses amis à la fin de la maternelle, ça m'a retourné. Toutes ces trajectoires qui se dispersaient. Le temps a passé et la petite fille qu'elle était devenue a trouvé sur son chemin des obstacles. Ces obstacles avaient pris la forme de questions. C'était le passé muet qu'elle voulait faire parler. Elle avait 8 ans et quand elle regardait la vie autour, elle se demandait à juste titre pourquoi elle n'était pas comme la plupart des copains et des copines, avec un papa et une maman. Alors Lise a interrogé sa gardienne. Moi, j'ai fait les grimaces. Je connaissais l'histoire, mais ça me faisait mal que la petite l'entende. Elle a été très choquée d'apprendre la vérité. La séparation à cause des coups de son père, la souffrance de sa mère. Ce fut la fin de l'innocence et sa grande arrivée un peu chiffonnée dans le monde cruel des adultes. Mais ce fut aussi la disparition d'un poids, car je sais que Lise s'était imaginée qu'elle avait été la cause du divorce, comme se l'imaginent bien des enfants. Mais le soulagement fit très vite place à la colère. Elle est arrivée en tourbillon et a projeté le soulagement en dehors de la vie de Lise. Pauvre soulagement. Face à la colère, il n'avait pas la moindre chance. De toute façon, le soulagement est un sentiment passager, une sensation toujours fugace, qui ne possède pas de racines. La colère, elle, pour peu que le terreau soit bon et riche en douleur et injustice, peut s'implanter pour très longtemps et résister à tout. Il paraît qu'avec des conditions favorables, elle est même capable de se transmettre comme un héritage. Je suis l'ange gardienne de Lise, mais je ne suis pas dans sa tête. Je ne peux que supposer, émettre des hypothèses sur ce qu'elle a pensé et ressenti. Cependant, j'ai tout vu, tout entendu, ça aide à y voir clair. J'étais sur son oreiller la nuit, au milieu de ses sanglots. Un week-end sur deux, elle se retrouvait chez son père, et l'autre chez sa mère, qui avait refait sa vie. Pas facile dans ces conditions de se sentir totalement chez soi quelque part. La semaine avec Annabelle et Léo, le samedi et le dimanche ailleurs. Avec cette tension palpable. La petite entretenait une colère comme on surveille un feu. Elle en voulait beaucoup à ses parents d'être séparés. Elle en voulait à son père d'avoir été un homme violent, et elle reprochait peut-être un peu à sa mère de ne pas avoir trouvé une autre solution. Mais la vie allait se charger de lui montrer que parfois on n'a pas le choix. À l'école, Lise est en difficulté. Son esprit est accaparé par les questions qu'elle se pose et qui la minent, mais aussi par cette colère sous-jacente. Parce que lorsque l'on est victime de ce que l'on considère comme une injustice, c'est la colère qui prolifère. La petite a donc des réponses à ces questions, mais elle ne les accepte pas. C'est peut-être pire de savoir finalement. Elle grandit avec ça, cette gueuse accrochée à son pied, un boulet de tristesse et de manque. Annabelle et Léo ont fait ce qu'ils ont pu, mais il manque quelque chose. Lise ne veut plus être seule, elle désire une famille. Celle qui lui a fait défaut. Le temps s'écoule au rythme lancinant de la colère qui s'enquiste. La petite est devenue grande et je ne me suis aperçu de rien. C'est vrai que je la suis tout le temps. Parfois j'ai honte, je me dis qu'elle a droit à des moments d'intimité. Mais les règles sont strictes. Alors quelquefois je suis là mais je ferme les yeux, ou je me bouche les oreilles. Être invisible ne suffit pas toujours. À 25 ans, elle se trouva un amoureux, Bernard. Et ils vécurent dans un appartement. Enfin, tout sembla vouloir rentrer dans l'ordre. Moi, je ne pouvais rien faire, mais je ne le sentais pas, ce Bernard. Je ne sais pas, une intuition. Une intuition que Baptiste, le père de Lise, a peut-être eue aussi. Il n'appréciait pas Bernard et l'annonce de la grossesse de sa fille a tout bouleversé. Baptiste lui assène cette phrase à scalpel. « Tu avortes ou on coupe les ponts ». Comme si une esquisse de bonheur devait obligatoirement se payer par un tribut égal. Comment se remettre d'un tel ordre? Impossible de juguler sa colère, encore moins de l'empêcher de croître. J'étais là quand Lise a poussé son premier cri sur terre, et de la voir subir cette froideur implacable m'a bien secoué. Parfois je voudrais bien faire autre chose qu'ange gardienne. Mais même si elle n'a pas conscience de ma présence, je ne peux pas la laisser tomber. Je ne serai pas mieux que les autres. Ce fut certainement son premier acte de femme, d'affirmer sa volonté d'avoir cet enfant, malgré les menaces et l'ignoble chantage. J'ai été fier d'elle. Dès la naissance du premier, Maxime, Bernard devient violent et se met à la frapper. Il avait bien caché son jeu. De mon emplacement, je souffrais. Je me mettais à détester cette vie qui faisait vivre à une jeune femme ce que sa mère avait vécu. La situation lui échappait. Elle mit au monde une petite Sarah 6 ans après Maxime. Mais les coups pleuvaient et Lise entrevit soudain que sa maman n'avait pas eu le choix quand elle avait quitté son père. Bernard était un jaloux possessif, Il ne supportait pas les escapades de Lise, qui aimait aller rendre visite à ses copines du quartier. Sa frustration se livrait à la colère, une reddition sans condition. Dès qu'il sortait, elle priait pour qu'aucun homme ne pose des yeux envieux sur elle, sans quoi elle savait ce qui arriverait de retour à la maison. 7 années auront été nécessaires à Lise pour quitter Bernard, pendant que moi je fulminais. 7 ans durant lesquels la peur de Bernard fut plus forte que la peur des coups. Un calvaire. Ce type avait même chargé une des copines de Lise de la surveiller. Bien sûr, elle ne le faisait pas et toutes lui disaient de le quitter. Mais c'est facile à dire, beaucoup moins à faire. J'assistais aux dégâts de la colère des deux côtés. Chez lui, la colère et l'alcool formaient un cocktail désastreux. Quand la petite Sarah avait 2 mois, elle pleurait souvent. Un jour, il l'a attrapée et secouée pour qu'elle se taise. J'ai ressenti une gigantesque onde de colère émaner de Lise. Mais sa peur de Bernard, la marque des coups et le souvenir de la douleur étaient encore trop forts. Quelque temps plus tard, le fruit fut mûr. Lors d'une nouvelle dispute à l'occasion d'un déménagement, Lise profita de la présence d'autres personnes pour prendre la fuite avec ses enfants. Elle se réfugia à l'auberge de jeunesse dans un premier temps, puis se retrouva dans un foyer mère-enfant. À partir de là, elle fut ballottée de foyer en centre, comme un fétu de paille emporté au gré des courants dans le lit d'une rivière. Bien qu'il eût été témoin des violences de son père, Maxime en voulut à sa mère. Il était perturbé, il se montrait agressif à l'école et il piquait dans le porte-monnaie de sa maman. Sans doute évacuait-il son mal-être et les scènes entre ses parents de cette manière. Lui aussi était en proie à la colère. Cet organisme qui semble capable de naître de toute chose ici-bas. Je me suis mise à sa place. Il perdait une vie de famille, certes très tendue, mais il se retrouvait placé en foyer, avec sa petite sœur, mais séparé de sa mère qui ne pouvait pour le moment assumer 2 enfants. Lise, qui a toujours souhaité une famille, la voit une nouvelle fois s'évanouir, et la colère est sa seule compensation. Contre ce compagnon qui avait tout foutu en l'air, contre la vie qui s'acharnait, et peut-être aussi contre elle-même, pour ne pas avoir été en mesure d'élever ses enfants. Encore une fois arrive le soulagement de les savoir en sécurité, supplanté par la culpabilité d'avoir fait ce choix-là, le même que sa propre mère. Et puis la colère qui balaye tout. Je la voyais souffrir de cette séparation. Comment ne pas nourrir des sentiments sombres quand on voit ses enfants seulement les mercredis? L'amour dispensé à dose homéopathique. Très vite, Michel entra dans sa vie et effaça Bernard. Un nouvel espoir sous un nouveau visage. Lise occupa un appartement et tomba enceinte de Michel. Une petite Anne-Laure vit le jour en 2012. Le couple se mit en ménage et pendant un moment tout s'apaisa et la colère reflua un peu. Mais elle ne fut jamais bien loin. Elle veillait comme une mauvaise mère et tournait autour de Lise à la manière d'un prédateur. Puis survint une dispute. Michel partit très en colère en chevauchant son scooter et eut un accident. Moi, de ma place, j'étais atterré. Je me demandais à quel moment la vie allait sourire à cette jeune maman. Maintenant, elle culpabilisait au sujet de l'accident de son compagnon. Elle regrettait la dispute. Toujours cette satanée colère en embuscade. Michel souffrait d'un traumatisme crânien et durant 17 jours, il ne la reconnut pas. Lise et sa petite Anne-Laure dans les bras. À la suite de cet accident, Michel conserva des séquelles. Il n'était plus le même. Il cédait à des accès de colère. Il se montrait déplaisant et agressif. L'agressivité comme l'ombre portée de la violence, cette vieille compagne. Hanté par ses anciennes expériences et un passé ombrageux, Lise décida une nouvelle fois de se séparer de son homme. Le rêve de conserver une famille stable se dissipa une nouvelle fois dans les volutes ardentes de la colère. Lise rencontra Louis et se dit que cette fois c'était le bon. Mais celui-ci ne plaisait pas du tout à Michel qui, nourrissant des craintes pour sa fille, demanda et obtint la garde d'Anne-Laure. Océan de colère et Lise perdue au milieu, naviguant à vue sur un rafio fatigué et tourmenté. La colère l'emporta et elle harcela Michel, lui en voulant de lui avoir pris sa petite. Louis se révéla être un clone de Bernard et il mit un peu de temps à dévoiler son vrai visage, alcoolique et violent. Retour à la case départ avec la sensation que cette case était de plus en plus lointaine, de plus en plus petite. Comment faire tenir une famille entière dessus? moi, assis sur ma branche d'arbre, j'observais. Et je voyais avec quelle aisance la colère s'emparait d'abord des esprits pour se donner ensuite à eux. Je n'ai pas à prendre parti, mais je crois que Michel a demandé la garde de sa fille pour la protéger du nouveau copain de Lise. Malgré ses séquelles, il y voyait clair. Son instinct lui commandait. Mais malgré sa bonne volonté, il ne fut pas en mesure d'assurer son rôle de père, et Anne-Laure fut placée en famille d'accueil. Lise en retira de l'amertume. Il lui prenait sa fille et n'était pas capable de s'en occuper. Elle enrageait. Maintenant, elle était encore plus loin d'elle. Sa colère irradiait comme un soleil noir. Elle frappait des gens autour. Son père, sa mère avec laquelle elle n'avait plus vraiment de relation depuis la naissance de Maxime. Et puis Bernard et Michel, bien sûr. La vie avait mis la colère dans le cœur de Lise, et elle jaillissait par moments, comme un cétacé sépulcral qui ferait des pointillés à la surface de la mer en remontant puiser de l'air. À partir d'un certain niveau, la colère avalait tout, digérait tout, la culpabilité, l'injustice, la peur, la honte, la déception, l'amertume et la rancœur et la colère elle-même. C'était un trou noir qui attirait et aspirait d'autres trous noirs. La bête était devenue si grosse qu'au moindre accroc, à la moindre contrariété, elle mordait l'entourage. Peu importe si les gens présents n'étaient pas responsables, il fallait que ça sorte, il fallait vider le chargeur de colère, et quand il était vide, avec le canon fumant et brûlant, dans l'écho du silence qui suivait, il y avait toujours un peu de répit, une parcelle de calme, une parenthèse qui ne durait jamais assez longtemps. Puis quand le tir de barrage cessait, que l'injustice avait frappé les proches, venait le temps de la défaite, quand la colère revenait dopée au carburant du regret. Et elle ricanait de sa victoire, et elle se moquait, et elle prenait encore un peu plus de place à chaque fois. Alors arrivait la déception de l'échec, un cycle infernal qui générait de la frustration qui elle-même nourrissait la sainte colère. Mais il restait de l'espoir, je crois. Dans les ondulations du temps, les premières blessures ont cessé de suppurer, et de la colère du divorce de ses parents et de la violence de son père ne subsistent que des vestiges qui s'effritent sous le vent. Ces décombres se délitent, mais ils sont toujours debout, parce que la seule chose qui peut véritablement guérir la colère est le pardon. Vous, les humains, vous êtes complexes et compliqués. Vous possédez les clés de votre bonheur, mais le trousseau semble si lourd à porter. Vous abritez le pardon en vous, cette grande bénédiction qui peut tout soigner, mais vous rechignez à l'accorder, comme si c'était au-dessus de vos forces, comme si c'était une rareté, feignant de savoir que l'offrir à autrui, c'est l'offrir à soi-même. Le pardon est une gomme qui efface tout. Sans doute est-elle difficile à manier. Je suis posé sur l'épaule de Lise depuis plus de 37 ans. Je la connais bien et je l'aime beaucoup. Ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu. Ce qu'elle a perdu, je l'ai perdu. Ce qu'elle espère, je l'espère. Dans les strates de sa colère, je sais lire. J'y vois la difficulté à pardonner son père, comme un cheval qui se cabre sous les coups de talons et refuse l'obstacle. J'y discerne une colère mue par la frustration du manque d'autonomie et l'éloignement des enfants. Il reste au fond de l'âme de Lise un fort et inaliénable désir de vie en famille dans un petit cocon. Mais j'y lis aussi une peur, celle de l'autonomie souhaitée avec ses enfants, car derrière existe la menace de l'échec. Enfin, je sens une envie de renouer avec sa maman, et c'est peut-être là que se trouve la solution. Je ne sais pas grand-chose, je n'ai fait que suivre les événements et les consigner, mais je sais au moins ceci. Lise a éprouvé le doute, la peine, la peur et la souffrance plus souvent qu'à son tour. Et ses sentiments ne connaissent pas le handicap. Ils se présentent entiers et valides, et terriblement efficaces. Lise a le droit d'y croire. Elle m'épate d'être encore debout et de ne pas avoir renoncé. Chaque jour, je la vois assurée dans son travail, et c'est bon pour son estime personnelle. Finalement, cette épaule sur laquelle je suis posé depuis tant d'années en vaut beaucoup d'autres. J'espère qu'elle va réussir à se défaire de cette colère qui a été son moteur, qui l'a poussée à l'action. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de couper le contact et que ce moteur gourmand se taise pour de bon. Lise. Un si long chemin. S'il existe un point commun entre chaque humain, c'est bien la colère. ce sentiment peut exploser avec autant de puissance qu'une bombe atomique. Souvent, il se signale par un champignon de cris et d'émotions qui monte et se développe et se répand jusqu'à obscurcir le ciel. Mais ce n'est pas le seul point commun avec la bombe affreuse. Une fois la colère libérée, le phénomène comporte une autre phase, totalement invisible, totalement silencieuse, mais terriblement insidieuse. À l'instar des radiations mortelles, la colère largue dans notre atmosphère mentale des quantités astronomiques de particules malsaines. Elle se propage dans tout le corps, dans l'esprit, jusqu'à parasiter la pensée la plus honorable. Alors, notre âme est tout entière recouverte par ce catafalque obscur, tel un ciel bouché de nuages noirs et obèses s'accumulant dans un maléfique carambolage démiurgique. Comme il faut accepter que le mal soit en chacun de nous, il faut entériner le fait que la colère vive aussi en chaque représentant de notre triste espèce. Tout petit, nous faisons vite connaissance avec ce sentiment à la puissance stratosphérique. Quel incroyable moteur! Les fameux caprices. Ah! Si un ingénieur trouvait un jour le moyen de transformer cette colère en énergie consommable, nous ne penserions plus à phagocyter, avec cette grande brutalité, notre planète si précieuse et fragile. Peut-être même qu'en choisissant bien l'individu, il suffirait d'un seul homme ou d'une seule femme pour y puiser de quoi alimenter la planète tout entière. Maître Yoda disait que la peur et la colère mènent au côté obscur. C'est une évidence qui se devait d'être conceptualisée. La colère est plus rapide que l'éclair et son grondement intérieur plus impressionnant que le tonnerre lui-même. La colère peut pourfendre des familles, pulvériser un couple, éradiquer des peuples et effacer des mondes. Pourtant, elle tient dans nos frêles corps de chair et de sang, spectre acide qui s'insinue jusque dans nos pauvres os. Ce sentiment, je le connais bien. Pendant longtemps, je l'ai laissé s'exprimer, un peu comme si je le considérais comme mon égal, une autre facette de ma personnalité. C'est peut-être le cas. Je n'ai pas encore tranché cette question. Je suis néanmoins plus enclin à envisager cette « chose » comme une arme de destruction, massive ou pas. Je ne compte plus les fois où elle a jailli de moi, presque par surprise, et a réalisé des frappes chirurgicales sur mes semblables, des objets ou même de l'immatériel. Car la colère collectionne les défauts, mais il en est un qu'elle n'a pas. Elle n'est pas raciste. Pour elle, tout ce qui vit et existe va dans le même sac, un sac qu'elle boxe sans répit, sans fatigue, sans fin. Avec le temps, avec la pratique, j'ai appris qu'elle ne résidait pas seulement dans la violence physique. J'ai vérifié que le verbe est un muscle et qu'il peut faire aussi mal, voire plus mal qu'un point ajusté au coin du menton. Pour le commun des mortels, c'est d'ailleurs la première manifestation de la colère. La gueule béante et baveuse, les yeux exorbités, le visage déformé à s'en faire peur. On éructe des chapelets d'insultes que l'on espère saignantes et méchantes, plus coupantes que des lames aiguisées à la pierre rugueuse. Il est de bon ton de lâcher ces diatribes d'une manière saccadée et à un niveau sonore le plus haut possible. Pourquoi un tel spectacle, me direz-vous? Je ne saurais donner d'explication. Juste mon impression, mon vécu. La plupart du temps, comme un chat nonchalant enroulé sur un vieux tapis, notre colère ronronne dans une indolence qui pourrait donner l'illusion d'une paix définitive. Mais elle ne somnole que d'un œil, et le bon. À la moindre occasion, elle se dresse sur ses petites pattes velues et griffues, et elle ouvre sa bouche hideuse pour en exhaler une haleine de trappeur tuberculeux. C'est le moment où l'on arrose copieusement tout ce qui bouge, et même ce qui ne bouge pas. Rien ne trouve gré à nos yeux révulsés, rien ne trouve grâce non plus. Comme le chante si bien Alain Souchon, peut-être en colère d'être si mal coiffé. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, pour ce jeu de dupes, voire sous les jupes des filles. Parce que la contrariété du goupillon peut en effet être une des raisons de la colère. Il se peut que personne mieux que notre chanteur mal coiffé n'ait jamais mieux expliqué ce phénomène para-hormonal qui mène le monde à sa perte. Quand elle sort de nous, en effet, cette harpie aux allures de hyène puante, nous sommes relégués au rang de simples laquais, d'hommes de main, ridicules pantins manipulés par la sainte mère colère. Et si l'on y prend garde, cela peut aller très loin. Car ce sentiment particulier possède un atout majeur. Il est cannibale, il se nourrit de lui-même. Faites l'expérience. Larguez dans l'atmosphère une dose de colère. Il en naîtra immédiatement une quantité équivalente dans votre cœur, et même un peu plus. Une sorte d'énergie renouvelable mais nocive, et qui plus est très instable et contagieuse. Nous sommes des bombes à fragmentation, dont chaque morceau explose lui-même en milliers de grains qui eux aussi se pulvérisent en poussière noire. Et ça continue, et ça continue. Encore un parallèle avec la fission nucléaire. Je ne vais pas me livrer à de la psychologie de comptoir, celle qui sévit lorsque les bouteilles sont vides et les vessies pleines. Mais il semblerait qu'il y ait au moins quatre sortes de colère. Celle qui est permanente. Il y a des gens comme ça, toujours en colère, contre tout et tout le monde. Ils traînent sans doute un vieux truc pas réglé, une chose gravée dans leur mémoire initiale. Je peux même concevoir qu'il s'agisse parfois d'un héritage génétique. Ensuite, nous trouvons ceux qui ont fait de leur colère un hôte permanent qui apparaît de temps en temps. Ceux-là sont nombreux. Il y a ceux qui portent la colère comme un passager clandestin. Ils ignorent son existence jusqu'au moment effrayant où elle surgit et dévaste tout. Et puis, il y a ceux qui la traitent en invité. Prudent, ils l'autorisent seulement à quelques rares visites, ne connaissant que trop bien son véritable potentiel destructeur et son inexpugnable sale caractère. Ils ne l'utilisent donc qu'à doses homéopathiques et à des fins très réfléchies. Pour finir, à la colère sauvage, celle qui fait irruption, presque éruption, s'opposent les colères dites sourdes et froides. La sourde n'entend donc rien à la raison, mais elle n'est pas aveugle. Celle-ci sait parfaitement toucher sa cible, surtout qu'elle a appris à se montrer patiente. Pour la froide, c'est un peu pareil, à la différence qu'il ne faut en attendre aucune pitié, aucun sentiment, aucun pardon. Car si la peur et la colère amènent au côté obscur, la colère conduit aussi à la rancune et à la vengeance, froide de préférence. Tiens, tiens, pour faire plaisir à Chauderlot de Laclos. Il y a tellement de chemins qui mènent à la colère. La jalousie, la méchanceté, la convoitise, la déception, la trahison, la frustration, l'échec, le succès, l'amour, la bêtise, la haine, la peur. Mais la voie la plus directe est peut-être l'injustice. En ce qui me concerne en tout cas, je ne supporte pas l'injustice. Elle déploie en moi des voiles gigantesques qu'un vent furieux gonfle en faisant grincer les mâts et les cordes. Finalement, c'est peut-être cela la colère, une tempête sous le crâne, un ouragan qui doit sortir et s'exprimer au risque de grossir et devenir encore plus terrifiant. Car si la colère sourd de nous, elle détruit quelque chose à l'extérieur, le sang ou les larmes coulent. Même si elle ne sort pas, elle ronge son hôte, elle grossit et se durcit, puis le dévore à petit feu comme un cancer intangible et immanent. Alors sommes-nous perdants, quoi que l'on fasse? Non. Mais la victoire demande de longues années et requiert de la constance dans l'effort et la réflexion. D'abord, identifier la colère, la reconnaître avec humilité, l'étudier, observer sa naissance, visiter sa tanière de ténèbres, connaître son terrain comme le nôtre, disséquer ses méthodes et apprendre toutes ses stratégies, mesurer son pouvoir titanesque et sa tendance à l'autodestruction, éprouver ce vague malaise quand elle est passée, cette substance étrange qui se dissipe après le feu nucléaire, cette enveloppe malsaine au relent de regrets et qui nous encercle dans la tristesse et la déprime. Réaliser l'ampleur de la défaite. Derrière la vague violente, il n'y a aucun soulagement, aucun apaisement, juste des ruines. Comprendre qu'une fois libérée, on ne peut plus rien contre elle. À la manière de l'eau qui fend le barrage, c'est trop tard, il n'y a plus rien à colmater. Entériner l'évidence que le secret de la victoire ne se cache pas dans l'épaisseur du barrage ni dans la qualité du béton. Que celui-ci réside dans la manière de recevoir l'injustice, l'agression, l'insulte, la contrariété ou la trahison.